BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. On est en direct tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web, on est également en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou bien de la nuit. Nous sommes mardi 2 juillet 2024. Au programme, impôts, placements, quelles décisions prendre face aux incertitudes politiques. On touchera un mot aussi du plan d'épargne Avenir Climat. Vous savez, un nouveau placement lancé hier 1er juillet. Que faut-il en penser? Analyse à suivre de Jean-Louis Delauro de la rédaction web de BFM Business et puis de Christian Fontaine de la rédaction du Revenu. À 10h30, votre dose d'économie quotidienne avec Nicolas Dose qui va nous dire pourquoi les marchés ont autant apprécié, entre guillemets, les résultats du premier tour des législatives. Côté bourse, c'est Antoine Larrigaudry depuis Euronext qui est en train de se connecter, mais aussi nos deux traders poursuivent la séance du jour dans le match des traders. On vous emmènera aux origines d'un terme du lexique financier, comme on fait tous les mardis avec Jean-Marie Daniel. Et aujourd'hui, on va savoir d'où vient le mot URSSAF. Et puis en portefeuille, on s'occupera des petites et moyennes valeurs aujourd'hui avec Eric Lévin. On se concentrera sur Trigano et EuroAPI. Eric a des choses à nous dire sur ces deux entreprises. Et puis, le question-réponse du jour. Aussi, dans ces temps d'incertitudes politiques, nous réfléchirons à ce qu'on appelle les placements réels. Ce qui rassure peut-être les montres, le vin, les forêts, les baskets, et on parlera d'art avec la maison Christie's. On reviendra sur l'état du marché de l'art avec la présidente. Et puis on parlera aussi du surréalisme qui fête ses 100 ans. Peut-on investir dans des œuvres du surréalisme? Réponse en fin d'émission. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre. On vous salue tous. Merci pour vos nombreux messages. Vous nous écrivez, les deux moyens, c'est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, vous m'écrivez en message privé, Lorraine Goumeau. Vos questions, vos réactions viennent infuser notre émission et participer à la réflexion. Nous partons du côté d'Euronext à la Défense, rejoindre Antoine pour faire le point sur notre CAC 40 dans le rouge. Et oui, mon cher Antoine, début de séance assez instable du côté de la Bourse de Paris. La baisse domine en tout cas.
Oui, moins 0,74% pour le CAC 40. On redescend du côté des 7500 points. On va tester ce niveau. Pour une fois, on est vraiment à l'unisson des places européennes. Si on regarde bien, moins 0,78% pour le DAX à Francfort et même score pour l'Eurostock 50. Alors, on digère la séance un petit peu particulière d'hier, qui n'était pas une vraie séance de soulagement, mais on a vu certains titres monter très haut d'un coup. Pas mal de rattrapages autour du secteur bancaire, autour du secteur du BTP, du contracting, etc., du fait de leur très forte contre-performance depuis deux semaines. Et puis là, on se réajuste. Vous voyez, c'est un mouvement de yo-yo qu'il faut suivre de près. Mais si on regarde bien, on a quand même certains titres qui sont attaqués. Alors, certains secteurs, singulièrement, notamment la restauration collective. On a Sodexo qui recale de 5,2%. On est à 81,25€. Elior, moins 4,01€ à 2,68€. La plus forte baisse du CAC 40, elle est pour Eurofins Scientifique, à moins 3,8% à 44,19€. Signalé beaucoup de pression autour de Michelin, qui a même dû être réservé quelques secondes à l'ouverture. Le titre perdait quasiment 5%. Là, on ne perd plus que 3,5% à 34,82€. Mais la pression est assez forte sur l'ensemble du secteur automobile, vu qu'on a Stellantis qui baisse aussi de 2,2%. Le titre cote à 18,23€. À la hausse, on retrouve quelques bonnes performances. Téléperformance, d'ailleurs, qui gagne 3,6% à 106,50€. Unibail Rodamco Westfield, plus 0,46% à 74,62€. On a LVMH, bien orienté dans le secteur du luxe. Le titre gagne 0,2% à 713,40€. Total Energy surnage, plus 0,06% à 63,65€. Mais il faut dire que les cours du brut se rapprochent dangereusement des 87$ le baril. Le Brent retrouve ses niveaux de fin avril. Et puis sinon, sur le SBF 120, notez Euronext qui gagne 0,8% à 89,65€. On a Aperam aussi bien orienté, plus 1%, 24,88€. Le CAC 40, donc moins 0,65, 7511 points. L'euro dollar, 1,0718. On est en faiblesse par rapport à la devise américaine après une belle remontée ces derniers jours. Puis un petit point sur les taux obligataires. On reste tendu du côté de la dette française. 3,34 petit à petit. On se rapproche de 3,35 alors que ça s'est un petit peu détendu côté allemand à 2,58. Donc le spread s'écarte à nouveau un petit peu en notre défaveur. Mais voilà, séance un petit peu instable qu'il faut suivre de près quand même.
Et bien justement, on continuera à suivre cette séance en cours avec vous dans une petite heure. Et puis dans votre histoire financière, on parlera de Sony, qui peut-être va jouer quelque chose du côté des cryptos. Vous nous raconterez ça vers 11h10. A tout à l'heure, cher Antoine. C'est l'heure du journal.
Tout pour investir le journal de votre argent.
Quelques actualités pour votre revue de presse financière ce matin avec les géants financiers comme Goldman Sachs, Morgan Stanley ou encore Barclays qui réévaluent l'impact potentiel sur le marché obligataire dont nous parlait à l'instant Antoine d'une victoire de Donald Trump en novembre. Chez Morgan Stanley, des stratèges ont affirmé dans une note publiée en fin de semaine dernière que le moment est venu, now is the time, de parier sur une hausse des taux à long terme par rapport à ceux à court terme. Un mot de BCE et d'inflation, il faut des preuves. Il faut des preuves que la Banque Centrale Européenne n'a pas encore pour pouvoir écarter les menaces d'inflation. C'est ce qu'a déclaré la présidente Christine Lagarde, alimentant ainsi les attentes d'une pause dans la réduction des taux d'intérêt ce mois-ci. Avec un marché du travail en zone euro qui est toujours assez robuste, la BCE dispose de temps pour évaluer les nouvelles informations. C'est ce qu'a précisé Madame Lagarde. De son côté, le membre du Conseil des gouverneurs, Pierre Wünsch, a indiqué qu'il lui faudrait être pleinement convaincu que l'inflation est en voie de revenir à l'objectif de 2% pour soutenir lui aussi plus de 2 réductions des taux cette année. Un mot de pétrole avec le Brent qui s'échange près de 87 dollars le baril, tandis que le WTI est autour des 83, dépassant les 83,68 dollars. En cause, l'escalade des tensions au Moyen-Orient. L'armée israélienne a rapporté que 12 soldats avaient été blessés, dont un grièvement lors d'une attaque de drones menée par le Hezbollah, soutenue par l'Iran, ce qui pourrait rapprocher le conflit d'une guerre à grande échelle. Et puis l'autre raison, c'est le climat, la saison des ouragans qui démarre précocement dans l'Atlantique. L'ouragan Beryl a été renforcé en catégorie 5. C'est le niveau le plus élevé sur l'échelle Saffir-Simpson. Elle est devenue ouragan la plus puissante à se former dans l'Atlantique à la période de cette année. À surveiller aujourd'hui les estimations de l'IPC de juin de la zone euro et les offres d'emploi Jolt de mai aux États-Unis. Prise de parole de plusieurs banquiers centraux, dont Christine Lagarde, Guindos, Elderson, entre autres, et puis Powell du côté de la Fed. Dans 10 minutes, on va se demander quelles décisions prendre face aux incertitudes politiques concernant nos impôts, nos placements, et puis on touchera un mot de ce plan épargne avenir climat qui a un jour. Que faut-il en penser? Mais avant ça, on passe une tête chez nos traders pour faire le point sur cette séance, elle aussi, pleine d'incertitudes, en tout cas pleine d'instabilité.
Tout pour investir, le match des traders.
C'est mardi, l'équipe, la fine équipe du mardi est avec nous. Gilles Santacreux, trader algorithmique du côté de boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On est avec vous pour décrypter quoi? Beaucoup d'instabilité, n'est-ce pas? Alexandre, on démarre avec vous.
Oui, bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, on voit un marché qui est quand même très nerveux depuis le début de la semaine. Alors, vous savez qu'il avait ouvert hier sur un gros gap haussier, c'est-à-dire un trou de cotation entre la clôture de vendredi et l'ouverture hier matin. C'est un gap de plus de 2%. On est venu quasiment à quelques points près, on est venu le combler. C'est-à-dire que le marché a fait marche arrière pour le combler. Mais dans ce mouvement de retour, ce matin, il a ouvert un nouveau gap baissier cette fois-ci. C'est aussi un trou de cotation important. Donc, ce qui laisse présager que d'ici quelques temps, pas forcément dans quelques heures, mais d'ici quelques temps, peut-être jour ou semaine, ce gap baissier qui s'est formé ce matin sera comblé. La grosse question, je pense, qui tourne dans toutes les têtes, c'est maintenant que le rebond du CAC a été gommé, est-ce qu'on a des signaux particulièrement alarmants? Moi, si vous voulez, ce qu'on regarde toujours depuis le début, c'est le niveau des taux et les spreads notamment. Ce matin, le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux de référence français à 10 ans et le taux de référence allemand à 10 ans, n'a pas fondamentalement beaucoup bougé. C'est 75 points de base, c'est toujours moins que le niveau de vendredi dernier avant le premier tour, on était encore à 85 points de base. Donc, je dirais que le mouvement du CAC 40 ce matin n'est pas lié à un stress particulier sur les taux. Alors oui, le 10 ans français monte, vous l'avez vu, le taux 10 ans français a grimpé depuis quelques jours, mais attention que vu que les spreads, eux, ne s'écartent pour l'instant, en tout cas, pas plus que ça, on voit que ça peut venir du côté des États-Unis. Si vous regardez le 10 ans américain, lui, par contre, depuis 48 heures, donc vendredi et hier, il a gagné 25, presque 30 points de base. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi le taux 10 ans américain rebondit alors que l'inflation américaine était plutôt en ligne avec les attentes et montrait un ralentissement? Ça vient probablement de l'hypothèse du du débat, du post-débat assez catastrophique qu'on a eu la semaine dernière, où Biden s'est montré plus faible que Trump dans l'apparence. Les sondages se sont affaissés pour Biden et du coup ça ouvre, en tout cas pour les marchés, c'est comme ça que le marché conclut, ça ouvre un boulevard à Trump. Et Trump, au rappel, il veut baisser les impôts aux États-Unis, baisser les impôts des Américains, donc ce qui stimulerait la consommation. Or, c'est bien là le problème de la Fed. La consommation est trop forte, ce qui maintient l'inflation trop élevée et ce qui empêche la Fed de baisser les taux. Donc je pense que ce qu'on voit actuellement sur les taux américains, c'est ça. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que le risque actuellement, il est un peu de ça, du fait que les taux se redressent aux États-Unis, et ce qui impacte aussi un peu l'Europe, et ça pourrait faire un peu pression à la baisse sur le CAC 40. Mais je pense quand même que le CAC 40, si on le dézoome un peu, pas sur 2-3 heures, mais sur quelques semaines, les niveaux de 7500 sur lesquels on est actuellement, je pense quand même qu'un investisseur qui est un peu patient, pas patient pendant 3 ans, hein, patient horizon quelques mois, je pense que c'est des niveaux qui sont tout à fait cohérents, on est 9 à 10% sous les records historiques, c'est déjà des niveaux qui sont assez intéressants pour commencer à investir un peu. Et si ça devait se stresser un peu plus, deuxième tour, un peu de capitulation sur le CAC, c'est-à-dire un peu de mouvement un peu vertical avant de rebondir. Les zones, il y a deux zones en dessous. 7280, c'est le plus bas annuel, c'est le niveau de janvier, plus bas de janvier. Et ensuite, il n'y a plus grand-chose dans les 7000 points. Mais je pense quand même que si on devait aller dans ces zones-là, ce serait plutôt soit un peu d'excès baissier, oui, un peu, on a passé une capitulation, c'est un marché qui lâche tout à un moment donné avant de rebondir. Mais je pense quand même que la zone 7000-7005, je pense, est quand même de nature à amortir les chocs baissiers. Donc après, on part de la turbulence, mais je ne pense pas qu'on parte vers 20 ou 30% de baisse derrière. C'est pas du tout mon sentiment.
Patience, cohérence. Gilles, et vos algos, qu'est-ce que vous surveillez comme niveau technique? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous décrire Alexandre?
Alors, au niveau de mes algos, c'est assez incertain. Hein. On n'a pas de grosses tendances. On avait pourtant la semaine dernière des probabilités d'un rebond cette semaine, mais qui ont été gommées par la séance d'hier. Alors, pour compléter ce qu'a dit Alexandre, je suis assez d'accord avec lui. Le gap haussier qui s'est ouvert hier n'a pas été comblé. Et on est venu l'annuler par un gap baissier qui se fait sur les mêmes niveaux de cotation. Ça, c'est un très mauvais signal. C'est assez négatif, c'est-à-dire que on transforme un signal de force haussière en signal de force baissière. Donc en fait, je dirais que les velléités haussières qui étaient apparues hier, eh bien, sont gommées par un signal baissier inverse qui apparaît aujourd'hui. On a une zone de rupture qui se situe à 7470 points. C'est sur cette zone qu'il va falloir se concentrer au niveau en termes d'attention, puisque c'est la cassure de cette zone qui validerait l'accélération possible du mouvement baissier qui est en route depuis maintenant les points hauts que l'on a eus au mois de mai. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal d'une possible reprise haussière. On avait une possibilité de reprise si les cours repasser au-delà d'une zone des 7722 points, mais ça a été annulé. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque l'on observe ce qui se passe, hein, au moment où on parle, on est à moins 0,6% de baisse actuellement, on a des grosses pondérations du CAC qui sont dans le vert. Je veux parler, par exemple, de Total Energy ou d'LVMH, et malgré ça, eh bien, on est bien dans le rouge au niveau de l'indice. Donc, ce qu'il va falloir aujourd'hui surveiller, eh bien, c'est cette zone des 7470 points, puisque c'est le franchissement baissier de cette zone, eh bien, qui pourrait donner un signal d'accélération du mouvement qui donc reste baissier, c'est-à-dire que malgré les signaux que l'on a eu hier, on reste dans une tendance baissière. On sortirait d'une zone de danger en comblant, premièrement, le gap qui a été ouvert ce matin et en repassant au-delà des 7570 points, mais le retournement haussier n'interviendrait que sur une rupture haussière des 7722 points. On en est très très loin, donc là, malgré, je dirais, des résultats jugé entre guillemets rassurant donc à la suite du premier tour, eh bien on voit qu'on a un stress qui persiste sur l'indice parisien.
Voilà, ces niveaux techniques que vous surveillez, que vous décortiquez, que vous déchiffrez pour nous. Merci beaucoup messieurs. Cette séance évidemment continuera à être analysée dans l'ensemble de nos programmes du jour, notamment avec Guillaume Sommerer dès 15h dans BFM Bourse. Merci Gilles Santacreux, boursicoté.com, et merci Alexandre Baradez de chez IG. On continue à s'occuper de votre argent, de vos finances personnelles, des sujets macroéconomiques et même microéconomiques qui nous concernent. C'est l'équipe du mardi à suivre pour le débat.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Jean-Louis Delloro, rédacteur en chef adjoint de BFMBusiness.com. Bonjour cher Jean-Louis.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Et c'est mardi, Christian Fontaine est parmi nous. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu. Bon, pour débattre, il faut ne pas être d'accord. Est-ce que vous n'allez pas être d'accord sur les prochains sujets? On va zoomer, on va s'intéresser à nos impôts, à nos placements, aux réflexions qu'il faut avoir et aux décisions qu'il faut peut-être prendre face aux incertitudes politiques. Quelle est la petite musique que vous jouez au Revenu cette semaine, cher Christian?
Vous avez cité un peu les mots-clés.
inquiets, en fait. Les épargnants, ils sont à la fois inquiets, mais à la fois aussi opportunistes. Inquiets sur l'avenir des marchés financiers. Ils s'interrogent comment protéger leur patrimoine, protéger leur portefeuille titres et leur PEA. Et puis aussi opportunistes. Il y a de plus en plus d'investisseurs immobiliers qui se rendent chez leur notaire et qui veulent reporter leur achat. Bah, pourquoi ? Parce qu'ils espèrent bien que si, en cas de victoire du centre, du camp macroniste ensemble et de la proposition de Gabriel Attal d'exonérer de droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire en fait droits de mutation lorsqu'on achète un appartement, toute première acquisition à hauteur de 250 000 euros, bah c'est vrai que si en province, lorsque vous avez comme projet d'acheter un studio, bah vous interrogez pourquoi pas reporter de quelques semaines cette acquisition. Alors, c'est vrai qu'il y a... Ce qui est important, donc, alors, en période d'incertitude, c'est bien sûr de ne pas paniquer, puis de prendre les bonnes décisions. En bourse, c'est vraiment au revenu, vous m'interrogez là-dessus. Notre leitmotiv ces derniers jours, c'est vraiment adopter la diversification attitude. Il faut être très clair, il faut parler vrai. On ne sait pas comment vont évoluer les grandes classes d'actifs au cours des prochaines années. Donc, notamment en bourse, diversifier. Donc, ça, c'est un concept que tout le monde comprend bien, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Maintenant, l'appliquer, c'est autre chose. Il ne s'agit pas uniquement d'investir dans deux titres différents, dans deux fonds différents. Il faut investir dans ce qu'on appelle des actifs décorrélés, c'est-à-dire qui ne connaissent pas les phases de hausse ou les phases de baisse en même temps. Donc, je vous fais grâce de la formule mathématique. Donc, le plus simple, très concrètement, c'est de mener cette diversification sur le plan géographique, sur le plan des secteurs, sur le plan de la taille des capitalisations, sur le plan des supports d'investissement. On investit en direct, dans des fonds d'investissement, dans des ETF, sur le plan des enveloppes fiscales, sur le plan des gestionnaires. Vous pouvez gérer vous-même une partie de votre épargne et puis confier une autre partie à un professionnel. Donc voilà, sur le plan boursier, c'est vraiment la diversification attitude, peut-être en renforçant les actions américaines. Le revenu conseille 45% d'actions américaines. On peut être à la fois patriote et pragmatique et ouvrir et diversifier son patrimoine international. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur la bourse. Maintenant, il y a aussi bien sûr des conseils à donner sur le plan fiscal.
On va y revenir sur ces conseils fiscaux. Jean-Louis, pour conclure, vous êtes dans la diversification attitude.
Oui, moi je pense déjà qu'effectivement, faut pas paniquer, faut garder la tête froide, même si c'est pas toujours évident ni simple. Et il faut repartir de ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Mais qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'a priori, on se dirige pas vers une majorité absolue écrasante. Ça va être très compliqué, sans doute qu'il y aura le RN en tête, mais avec sans majorité absolue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement qu'en fait le budget 2025, il va être très 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 compliqué à passer. Ça, c'est quand même ce qui est le plus probable. Et donc, si le budget est très compliqué à passer, parce qu'en fait l'arme du 49.3 bah, va être compliquée à utiliser, puisqu'en fait derrière il n'y a pas de dissolution possible, donc il n'y a pas d'équilibre de la terreur entre guillemets, donc en matière de fiscalité on peut s'attendre à ce qui n'est pas le grand soir fiscal qu'attendait par exemple le nouveau Front Populaire ou même le Rassemblement National. Donc, a priori il n'y aura pas d'énormes changements, il y aura sans doute beaucoup de petits ajustements seront consensuels, par exemple s'il y a aussi un gouvernement technique, c'est aussi une possibilité qui est laissée à Emmanuel Macron. Donc de toute façon, il faut pas investir en fonction de la fiscalité. Ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler aux gens. C'est toujours un très mauvais investissement. On investit en fonction du rendement, du type de placement, de ses convictions. Par exemple, si on veut investir de façon plus écologique, voilà. Mais on n'investit pas en fonction de la fiscalité. Et là, vous avez plusieurs options. Alors, je dirais quand même, si vous avez d'importantes plus-values et que vous dites que bon, c'est peut-être le moment de sortir pour avoir un peu d'argent frais et avoir du cash disponible, bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée de le faire maintenant ou dans les mois à venir, parce que la flat tax à 30%, vous savez pas si elle va se maintenir en fait l'année prochaine.
Elle va rester très flat.
Voilà, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt pour alourdir cette fiscalité-là. Donc bah à ce moment-là, sortez maintenant si vous voulez récupérer vos plus-values. Si vous êtes sur du long terme, avec un horizon de temps qui est de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne sert à rien de tout vendre. Vous pouvez lisser vos investissements mois après mois, peut-être garder un petit peu plus de cash. Moi, je vais prendre l'exemple du Brexit. le Brexit à Londres, qui a quand même été aussi un séisme politique. C'était en juin 2016. Là, j'ai regardé le FTSE 600, donc le principal indice de la Bourse de Londres. Il est actuellement 30% au-dessus de son niveau d'avant-vote pour le Brexit. Alors, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas.
Il y a 8 ans quand même, le Brexit.
Voilà. Donc, en fait,
le début du Brexit.
Mais c'est intéressant parce que 30% en 8 ans, finalement, c'est pas énorme pour la Bourse. C'est pas franchement terrible. Après, c'est pas franchement non plus catastrophique. Donc voilà. Non, mais ça donne un peu une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Et effectivement, moi, à ce moment-là, si vous voulez investir dans la Bourse, vous pouvez investir dans d'autres actions en Europe, hors de France, par exemple, ou les actions américaines, hein, parce que c'est quand même la S&P 500. C'est le plus gros marché du monde. Wall Street, c'est le plus gros marché du monde. C'est le plus rentable et le plus performant. Donc, c'est aussi peut-être le moment de s'intéresser à ça. Et puis, sur l'immobilier, c'est possible que les taux ne baissent plus. On va en reparler. Pour l'instant, ça baisse encore un petit peu. Mais si ça vire au chaos politique, a priori, les taux vont arrêter de baisser, voire peuvent remonter. Donc, si vous avez un achat de résidence principale, je pense que bon, il faut pas forcément trop tarder. Après, si c'est un investissement locatif, là, j'attendrai un peu d'en savoir un peu plus à quelle sauce je vais être mangé, parce que c'est vraiment très compliqué.
Les conseils de Normand de Jean-Louis Delorot ce matin. Bon, pas le grand soir fiscal. Moi, j'ai pas d'avis d'avance sur la situation, ce n'est pas mon rôle ici, mais je reprends les termes du stratège de chez JP Morgan Asset Management, Juvins, qui disait hier, à propos du rebond des marchés, il dit qu'il est un peu surpris par la réaction de marché. Il pense que c'est clairement prématuré compte tenu de la faible visibilité pour la semaine à venir. Il faut quand même dire qu'on est à la lampe torche, là. On est entre deux tours d'élection. Alors bon, on garde des liquidités et puis on réfléchit très intensément en fait à ce qu'on pourrait en faire la semaine prochaine.
Ben, ce qui est certain, alors il y a le plan boursier sur le plan fiscal, mais sur le plan boursier, ce qui est sûr, c'est que les incertitudes politiques ne vont pas s'arrêter le 7 au soir.
Ouais.
Donc à partir du moment où on pense que le niveau d'incertitude politique va demeurer plus élevé qu'il ne l'était il y a un mois, ben effectivement s'interroge, donc alors se pose la question de la diversification de ces actifs, et notamment en dehors de l'Europe. Et c'est vrai que je répète ce qu'on disait tout à l'heure, mais les actions américaines offrent aujourd'hui à la fois plus de visibilité et puis surtout plus de profitabilité. Mm-hmm. Regardez les derniers chiffres de DataStream, enfin les prévisions des professionnels en matière de bénéfices par action pour les entreprises du Standard & Poor's 500 en 2024 ou 2025 par rapport aux prévisions des mêmes experts pour les entreprises de l'Eurostock 600, c'est quasiment du simple au double. Donc il faut bien sûr aller chercher la croissance là où elle est. Je voudrais revenir quand même sur le plan fiscal, parce que il y a quand même des choses à faire. Il y a d'ici à dimanche prochain, vous avez deux types en fait d'opérations. Vous avez sur le plan fiscal ce qui est libératoire et ce qui n'est pas libératoire. C'est-à-dire que si vous avez dans les tuyaux, si vous êtes sur le point de passer chez le notaire pour vendre un bien immobilier et que vous savez que là-dessus vous aurez de l'impôt sur la plus-value, ne vous inquiétez pas. De toute façon, l'opération elle est libératoire. C'est-à-dire que peu ou prou, quelle que soit la nouvelle majorité, quelles que soient les décisions qui seront prises à l'Assemblée nationale, passer par la case impôt et demain il n'y aura pas un surcroît donc d'impôt à payer. Il en va de même pour tout ce qui est donation, et là c'est très simple. Si vous voulez, aujourd'hui vous pouvez profiter des abattements entre parents et enfants, vous pouvez faire une donation hors impôt, c'est très simple, il faut la déclarer, alors là dans l'immédiat auprès du site impôt.gouv.fr, et là aussi ça sera libératoire. Si vous ne payez pas d'impôt avec la fiscalité actuelle, c'est celle qui s'applique, et demain, même s'il y a un durcissement de la fiscalité sur l'héritage, ça, vous ne serez pas concerné. Ce qui est plus complexe, c'est en matière de plus-value mobilière et en matière de dividendes. Vous pouvez vous dire, effectivement, même si je suis d'accord avec Jean-Louis sur ce point-là, il n'y a pas que les aspects fiscaux, mais vous pouvez vous dire, si je vends aujourd'hui une grosse ligne de titres sur lesquels j'ai une grosse plus-value, je vais payer la flat tax je vais échapper à un éventuel durcissement de la fiscalité boursière. Non, là, que nini, parce que ce type d'opération n'est pas libératoire. Donc, de toute façon, l'impôt sur la plus-value, sur les plus-values mobilières, vous n'allez pas la payer cette année, donc vous ne la payez pas lors de la réalisation du gain, lors de l'opération, mais l'année prochaine. Et pour les dividendes aussi, si vous êtes chez une entreprise que vous voulez vous payer des gros dividendes, a priori ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, les 17,2 sur les dividendes, ils sont prélevés à la source, sont libératoires, mais pas les 12,8. Donc, prudence quand même. Il faut bien savoir que si vous envisagez aujourd'hui certaines opérations patrimoniale. Il faut bien regarder de près quelles seront donc les conséquences fiscales. Même on le rappelle toujours, et ça c'est un leitmotiv de la une caractéristique de la fiscalité française, on ne sait pas aujourd'hui quelle sera la fiscalité sur un certain nombre d'opérations réalisées depuis le 1er janvier 2024. Hein. Il peut y avoir une loi de finances rectificative qui soit rétroactive sur les plus-values mobilières et sur les versements de dividendes. Donc prudence à ce niveau-là.
Voilà, attention, si vous êtes dans une réflexion patrimoniale, il y a peut-être des arbitrages, des décisions à prendre. J'ai promis depuis le début de l'émission que nous toucherions un mot du plan d'épargne avenir climat. Alors un nouvel acronyme, ça va donner le PEAC. Il a un jour son portrait, mon cher Jean-Louis.
Eh ben, c'est le plan d'épargne climat, d'avenir climat, qui a longtemps été promis, donc disponible depuis le 1er juillet. C'est réservé aux moins de 21 ans, donc aux jeunes, pour placer leur argent dans des entreprises et des projets qui sont liés à la transition énergétique. Alors, il peut prendre deux formes, hein, techniquement. Soit c'est un compte titre, soit c'est un contrat de capitalisation. Mm-hmm. Alors, ce qui est important, hein, ça, c'est des éléments très importants, c'est capital non garanti, rendement non garanti. Il y a un plafond maximum qui est de 22 950 euros, vous ne pouvez pas placer plus d'argent. Et les sommes qui sont versées, elles sont bloquées pendant 5 ans au minimum après l'ouverture du plan. Et autre détail qui a son importance, si vous retirez de l'argent, hein, même 5 euros, vous n'avez plus le droit de faire de versement jusqu'à la clôture du placement.
C'est-à-dire qu'il faudrait en fermer et le rouvrir pour pouvoir réinvestir.
Alors, ça dépend parce que justement, la clôture, normalement, elle se fait aux 30 ans de façon automatique. Mmh. Ou sinon, vous pouvez avoir une option.
Mais ça, c'est un minimum, je pense.
Voilà.
Un minimum de détention.
De toute façon, comme il faut bloquer 5 ans. Et côté fiscalité, alors pas d'impôt sur le revenu, oui, ni de prélèvements sociaux sur les gains liés au placement. Bon. Moi, après, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je pense que c'est honnêtement pas un très bon placement, surtout parce que ça s'adresse en fait aux jeunes. Donc ils risquent, un, de payer beaucoup de frais sans rendement ni capital garanti, donc ils risquent d'avoir de mauvaises surprises, donc ils vont se dire bon, en fait l'investissement, l'épargne, c'est pas pour moi. En plus, dans des investissements qu'ils ont pas forcément très bien compris, parce que les investissements verts, en fait, ça veut un peu tout et rien dire. Alors, il y aura des labels, etc., mais après faut aller voir derrière les labels qu'est-ce que ça veut dire, etc., des fonds. C'est aussi un âge où on a souvent besoin de retirer des fonds, hein, quand on a 20 ans, entre 20 et 30 ans, il y a les études, il y a peut-être un premier achat immobilier, il y a peut-être les premiers enfants. Donc c'est quand même une période délicate si on peut rien faire pour retirer ses fonds si on en a besoin. Et ensuite, troisièmement, vous pouvez faire la même chose en fait, sans avoir autant de contraintes, avec une assurance vie, un PEA ou un compte titre. Et là, vous aurez beaucoup plus de choix. Et notamment, si vous voulez vraiment faire des placements écologiques et vous êtes un puriste, entre guillemets, là-dessus, vous pouvez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus finement, choisir vraiment ce qui vous convient. Donc, moi, je pense que c'est pas un très bon placement par rapport à cette cible-là. Et puis, ça fait une poche d'épargne en plus. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, ouais, et que ça devient confus pour les gens.
Pour conclure, Christian, vous nous faites souvent le scénario sur une famille avec deux enfants et un couple. Ça fait 4 livrets A, ça fait près de 100 000 euros déjà investis de manière garantie, sécurisée et qui rapporte actuellement plus que l'inflation. Petite oreille et petit message à mon oreillette, on me dit que vous n'allez pas trop aimer ce placement.
Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais la question que je pose, c'est est-ce que ce placement va rencontrer son public ? Et là, on peut en douter, on verra bien. Mais surtout, la question que je pose, c'est que depuis le 1er juillet, effectivement, sur le papier, il est possible il y a un nouveau placement. Maintenant, quelles sont les banques qui le proposent ? Manifestement, si vous voulez, bon, c'est vrai que tous les textes d'application sont sortis assez tard, c'est vrai qu'il y a des durées de développement informatique minimum, mais il faut attendre de voir quelles sont les banques en ligne, quelles sont les grandes banques à réseau, quels sont les néo-brokers qui proposeront ce produit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plafond sur ce produit qui est le même plafond que le livret A, 22 950. Alors ça peut paraître élevé pour un certain nombre de personnes, mais lorsque vous êtes une grande banque à réseau, vous vous interrogez avant, je dirais, de mettre des dizaines de développeurs informatiques sur une nouvelle enveloppe fiscale, pour laquelle la rentabilité, en tout cas le retour sur investissement, n'est pas garanti. Donc ça, c'est première question. Quels sont les établissements et quelles sont les banques qui proposent d'ores et déjà ce placement ? Moi, à ma connaissance, personnellement, j'en connais pas.
Bon, ça va peut-être venir dans les... J'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas trouvé.
Ça va peut-être venir dans les prochaines semaines. Après ça, c'est vrai que Il y a déjà beaucoup d'enveloppes fiscales. Et pour terminer, ben, tout simplement, il y a aussi le PEA jeune. Vous savez, le PEA jeune, ça a été, entre guillemets, donc alors un bel échec. Et donc, on espère donc, alors, que ça ne sera pas le cas pour le PEAC. Mais en tout cas, on verra et on aura certainement l'occasion d'y revenir.
Bon, allez, moi, j'aime bien saluer le travail et être positive. Un placement qui a le mot climat dedans, et ben, c'est quand même pas mal, finalement. Et qui s'adresse aux jeunes. Ça veut dire qu'on essaye de réfléchir à concerner nos jeunes dans l'investissement, aiguiller l'argent vers le futur. Finissons sur cette note positive, on donne une chance au produit. On fera en tout cas le bilan au fil des semaines. Vous êtes très nombreux à nous demander notre avis dessus. J'espère qu'on a pu répondre un petit peu à quelques-unes de vos interrogations, chers auditeurs, auditrices. J'en profite pour vous dire que demain, notre coaching portera sur comment choisir sa plateforme d'investissement. Vous cherchez à faire votre choix là, entre plusieurs néo-brokers. Vous cherchez quelle banque, peut-être banque en ligne, utiliser pour justement ouvrir un compte titre ordinaire ou peut-être un PEA, puisque de plus en plus de plateformes proposent des PEA. Et bien demain, on répondra à vos questions avec Grégory Gulmin, qui sera notre coach. Et puis on parlait tout à l'heure d'arbitrage patrimoniaux. Jeudi, on sera avec notre gestionnaire de fortune Marion Chapelle-Massot qui viendra nous aider à faire des bons choix dans cette période d'incertitude politique. On parlera d'assurance vie luxembourgeoise, on parlera de la loi Sapin, on parlera des bons choix à faire parce que c'est une période, vous avez entendu, où c'est le moment de réfléchir à vos arbitrages financiers. Merci à tous les deux, merci Jean-Louis Dalloureau, rédacteur en chef de bfmbusiness.com, et puis merci Christian qu'on retrouve dans une petite heure pour notre question-réponse du jour. Et puis alors, on va répondre aussi à ces incertitudes politiques en vous aiguillant vers les placements rassurants pour certains, certaines. Les montres, le vin, la forêt, entre autres. Ce sera dans une heure. Vous avez des questions, on aura des réponses avec Christian Fontaine. Deux adresses, direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. A tout de suite après la pub pour une dose d'économie avec Nicolas Dose qui va nous expliquer pourquoi les marchés ont apprécié, entre double guillemets, le premier tour des élections législatives. A tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Vous avez peut-être été nombreux à vous demander pourquoi le CAC 40 était en hausse hier. Nicolas Dose a peut-être des réponses. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Oui, en hausse de plus de 1%, après même un bond de 2,6% à l'ouverture des cotations hier lundi. Hein. Pourquoi la bourse vit-elle si bien le résultat du premier tour des législatives, Nicolas?
Alors, trois éléments de réponse. Le principal, c'est qu'à 20h dimanche, les boursiers considéraient que c'était fait, on n'aurait pas NFP à Matignon, le nouveau Front Populaire avec son programme économique un peu délirant, hyper anti-business. Donc déjà, gros ouf de soulagement. Le deuxième élément, c'est que visiblement, il semblerait que sur les marchés, la présomption qui l'emporte, c'est qu'on va probablement vers une absence de majorité absolue, donc probablement vers une sorte de blocage politique. Et mine de rien, eh ben, le marché préfère avoir une Assemblée nationale inactive qu'une Assemblée nationale qui pourrait voter n'importe quoi. Mm-mm. Donc ça aussi, c'est un élément rassurant. Et puis il y a un troisième élément, c'est qu'il y avait probablement eu un phénomène de déstress hier. Parce qu'en fait, le gros du recul de marché est intervenu au mois de juin. Et on n'a pas rattrapé le retard du mois de juin avec la hausse de 1% à la clôture d'hier. Et donc, il y a eu une sorte de respiration après le premier tour, alors qu'on avait quand même vécu des grosses tensions, notamment depuis la dissolution. Hein, c'est le vieil adage. Mmh. Avant, tu vends la rumeur. Et après, t'achètes la nouvelle. Voilà. Mmh. Après, attention, on va pas surréagir une réaction de marché sur une journée. Ça n'est que ce que c'est, rien de plus. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, le CAC 40 est plutôt dans le rouge. Peu, mais dans le rouge. Donc voilà, la réaction d'hier est vraiment une réaction, à mon avis, pour les raisons que je viens de vous exposer.
Clairement, c'est prématuré compte tenu de la faible visibilité de la semaine. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui se passerait sur les marchés si, finalement, le Rassemblement national décrochait une franche majorité?
Alors, il est clair que s'il y a une majorité absolue pour le RN, on n'aura pas l'euphorie le 8 juillet qu'on a eu hier, 1er juillet. Ça, c'est évident. À mon avis, le moment clé pour les marchés, c'est pas là. Ça va être plutôt au mois de septembre, parce qu'il y a un sujet. Mmh. Il y a un sujet que le reste du monde regarde et qui pourrait faire frémir le reste du monde, c'est la France va-t-elle ou pas tenir sa promesse, respecter ses engagements européens. C'est le sujet qui compte en priorité. Et pourquoi je dis à la rentrée? C'est parce que c'est au moment du budget qu'on aura des réponses à ces questions. Et au regard du budget, on verra si effectivement la France tient ses engagements européens, tient son budget, tient les règles budgétaires, ou si elle décide de rompre totalement avec ce qu'elle a pourtant ratifié. Et c'est le moment du budget qui est un moment absolument clé, c'est le moment essentiel de l'économie d'une nation. C'est au moment du budget qu'on aura des réponses à ces questions. Et ça, Ça, pour le coup, c'est très attendu.
Oui, parce que si le budget 2024 était reporté, ce serait reporté de mois en mois, de mois en mois, de mois en mois, et ça, les investisseurs n'aiment pas.
Enfin, si on avait un report un peu quasi mécanique et technique du budget, faute de pouvoir valider un budget 2025, à la limite, c'est un peu le moindre mal. Vous savez que vous allez, c'est de la gestion des affaires courantes. Mmh. Vous reportez votre budget. Autrefois, ça s'appelait les 12e provisoires, mais il y a effectivement la possibilité de reporter le budget. C'est l'idée, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de majorité, qu'on a un gouvernement technique. Un peu comme a connu l'Italie à plusieurs reprises depuis l'après-guerre. C'est une perspective qui est plutôt une perspective rassurante, à la limite, pour les boursiers, plutôt que d'avoir une majorité absolue qu'ils redoutent.
Bon, que se passerait-il si vraiment la France rompait de manière explicite avec ses promesses européennes? Racontez-nous.
Ah bah, imaginons qu'effectivement, on décide de réduire d'autorité notre contribution au budget européen, qu'on décide unilatéralement de tripatouiller dans tous les sens la TVA. Imaginons qu'on fasse un budget totalement dépensier, là c'est sûr qu'il y aura une rupture des engagements de la France très nette. Alors c'est le risque d'un effet domino pas très très cool en fait. Vous risquez d'avoir d'abord de d'essorer définitivement ce qui reste de confiance de la part des pays frugaux du nord de l'Europe, avec qui on partage la même monnaie, notamment les Pays-Bas ou l'Allemagne. Le moment de bascule, ce serait le risque d'un refus de la BCE de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Alors là, on passe d'un monde à un autre. À ce moment-là, vous avez automatiquement un phénomène de stress qui s'empare des taux souverains et évidemment, très vite derrière à l'automne, une dégradation de la note souveraine de la France. C'est vraiment le scénario du pire. C'est le scénario qui annonce une sorte d'incident de crédit. Bon, si effectivement on en était là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. D'ailleurs, hier, vous regardez le taux à 10 ans de la France, c'est un peu détendu. Mmh. Un peu, pas beaucoup. On est tombé à 3,27, je crois, sur 10 ans. Et l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est repassé largement sous les 80 points de base. On est même repassé sous les 75 points de base. Alors quand même, après la dissolution, on est monté jusqu'à 86 points de base. Je vous rappelle qu'avant la dissolution, on était en dessous de 40 quand même. Donc il n'y a pas le feu. Mais il y a quand même eu un phénomène de léger stress de marché. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que avant les contre-réformes des retraites, avant les bidouillages de TVA, avant un retour à une forme d'ISF, ce qui compte, c'est la France. Va-t-elle inspirer confiance? Va-t-elle respecter ses engagements européens? Parce que derrière, c'est la confiance dans l'euro qui est en jeu. Je crois que c'est ça le moment le plus important. Et donc, rendez-vous à l'automne.
Rendez-vous à l'automne. Voilà pourquoi le CAC 40 a-t-il rebondi et pourquoi finalement la bourse a applaudi les résultats de ce premier tour des législatives. Merci Nicolas Dose. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et si vous voulez participer à la discussion, au débat, ça se passe également sur la page YouTube de BFM Business. Les chroniques de Nicolas sont à retrouver d'ici quelques minutes. Il y a un large espace commentaire. Vous avez la parole. Vous restez avec nous. On va maintenant s'occuper des petites et moyennes entreprises. Comment vivent-elles également cette semaine d'incertitudes politiques? Réponse avec Eric Lewin.
Tout pour investir en portefeuille.
Mais il est là tous les jours, Eric Lewin, cette semaine. Bonjour, Eric.
Bonjour, ma chère Lorraine. Ben oui, vous m'invitez tous les jours, je suis là. Hein. Moi, je suis docile et sympathique.
Pour vous qui vous intéressez aux petites et moyennes valeurs, nous étions en émission spéciale hier, une demi-heure pour répondre à vos questions sur certaines valeurs précisément, et puis aussi prendre le pouls de cette cote. Comment va-t-elle depuis le début de l'année? Quelles sont les perspectives pour le deuxième semestre? C'est le question-réponse à retrouver sur notre site et notre application hier avec Eric Lewin et Julia Bridger de Roland Corporate. Bon, on prend le pouls aujourd'hui, parce que chaque jour suffit à sa peine, on va dire. Les marchés et un mois de juin compliqué pour les small. Racontez-nous.
Oui, écoutez, un mois de juin très très compliqué. Alors hier, on a eu une très bonne séance pour les small, plus 4,05%. Ça faisait très longtemps que les small n'étaient pas à pareille fête suite aux résultats des élections législatives. Mais quand on regarde quand même depuis le début de l'année, Lorraine, on est en baisse de 3,3% sur le CAC small, on est en baisse de 2% sur le CAC mid, et le CAC 40 fait un petit peu mieux avec une baisse de 0,7%. Il est bien évident que si le RN n'a pas la majorité absolue, il devrait y avoir un salut au small. Vous savez que les progrès économiques du RN et du NFP ne sont pas très bons pour la France, et donc ce sont surtout les small qui sont touchés, alors que quand vous êtes une big cap, une grosse capitalisation, vous êtes moins touché parce que vous réalisez en moyenne pour le CAC 40 82% de votre chiffre d'affaires à l'international.
Bon, évidemment, ce poids de l'international fait toute la différence. On va zoomer sur une ou deux valeurs, si vous voulez bien, parce qu'on a un tout petit peu de temps. Je voudrais qu'on revienne sur Trigano.
Alors Trigano, il y a eu une question hier d'un auditeur, on est passé assez vite sur le sujet. Ce qu'on peut dire sur Trigano, c'est que la valeur perd 25% depuis le début de l'année, alors que pourtant les indicateurs sont au vert. Le dernier chiffre d'affaires, on a eu une croissance organique de 7,4% à plus d'un milliard d'euros. C'était un chiffre d'affaires trimestriel, hein, parce qu'eux, ils ont un exercice décalé, donc c'était le troisième trimestre. Bon, il y a une légère décélération par rapport au premier semestre, plus 17,3% au premier semestre, donc plus 7,4% sur le troisième trimestre, parce que du côté des caravanes et des résidences mobiles, ce n'est pas exceptionnel, mais les camping-cars permettent de compenser. Ce qu'on peut dire sur ce dossier, c'est que c'est un dossier purement value, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas très cher quand vous regardez les comparatifs. Juste un mot de la rentabilité, elle sera au-dessus de 12% cette année. Ils ont quasiment 400 millions de trésorerie nette, donc pas d'endettement. Et donc, je le disais, les ratios sont pas chers. On est sur un PER Lorraine de 6 et une VE sur ROC de 3. Donc, ce qui veut dire qu'il faut acheter, à mon avis, au cours actuel Trigano. Alors, c'est sûr qu'il faut peut-être pas acheter puisque je dis qu'il ne faut rien faire avant le 8 juillet. Mais c'est vraiment un dossier qui a un très, très gros potentiel et qui est complètement laissé de côté. Pour le moment, comme beaucoup de small et mid, je rappelle que Trigano, c'est à peu près 2,2 milliards de capitalisation boursière.
Voilà le point sur Trigano au fil des jours. Un petit mot d'EuroAPI. Est-ce que vous êtes toujours dans la déception?
Écoutez, oui. Hier, vous savez, on a fait les flops du premier semestre. Je vous ai parlé notamment de toutes les sociétés, les biotech qui avaient fait beaucoup de capsa. EuroAPI, on est dans les principes actifs, mais c'est la grosse déception encore de ce premier semestre, moins 54%. Je vous rappelle que c'est un spin-off de Sanofi qui sont spécialisés sur le principe actif pharmaceutique. On n'est plus qu'à 250 millions de capi. Que s'est-il passé sur le semestre? Eh bien, fin février, des résultats qui sont nettement inférieurs aux attentes. Le titre fait moins 43%. En mai, ils indiquent qu'ils feront finalement entre moins 4 et moins 7% en termes de chiffre d'affaires, moins 15. Et puis la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils annoncent, nos amis d'EuroAPI, qui feront une baisse de 8 à 11% de leur chiffre d'affaires cette année, avec une marge d'EBITDA qui sera entre 4 et 7. La problématique, elle était à 12,3% en 2022, 9,2% en 2023. Alors, Sanofi va bien sûr investir 200 millions via un financement, mais très honnêtement, j'ai du mal à revenir sur ce dossier. Ça avait très bien commencé. Je crois que l'IPO était à 12 euros. On avait fortement monté après. Mais depuis, c'est la soupe à la grimace sur EuroAPI qui n'est pas loin de ses plus bas niveaux historiques. Donc, excusez-moi, mais moi, je passe mon tour sur ce dossier avec en plus des brokers qui, les uns après les autres, dégradent la valeur. Vous me direz, c'est pas très compliqué de dégrader une valeur quand elle ne cesse de baisser. Mais la Deutsche Bank, par exemple, qui aimait bien le titre, et ben hop, ils sont à la vente avec un objectif de cours à baisser 3 à 2,50 €. Alors c'est pas parce qu'un broker, on en a jamais parlé, c'est pas parce qu'un broker est devenu négatif que le titre baisse forcément. Mais quand même, il y a vraiment des signaux négatifs de la part des investisseurs institutionnels, négatifs de la part des particuliers, négatifs de la part de la société. Donc on passe vraiment son tour sur EuroAPI pour le moment.
Voilà, nos PME et ETI cotées qui sont confrontés à des défis de financement majeurs, à des difficultés. On continue à prendre le pouls de nos petites et moyennes entreprises avec vous, cher Eric. Tous les mardis, c'est le journal des small et mid cap. Vous avez des questions, des valeurs sur lesquelles vous voulez qu'on s'arrête? Eh bien, vous nous les adressez avec vous, direct à bfmbusiness.fr, et puis aussi sur LinkedIn en message privé, comme Adèle et Victorien qui nous ont demandé, voilà, notre avis sur quelques valeurs. Merci Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, tous les mardis dans Tout pour investir et quand vous le voulez sur notre site et notre application. À suivre, on vous emmène aux origines d'un terme du lexique financier, administratif, fiscal. Aujourd'hui, on va revenir aux origines de l'URSSAF, des URSSAF. Jean-Marc Daniel, au décryptage dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
C'est un mot, un acronyme que vous n'aimez probablement pas beaucoup. On va parler de l'URSSAF aujourd'hui, ou plutôt des URSSAF. Première question sur le singulier ou le pluriel avec vous, Jean-Marc, bonjour.
Bonjour. Alors la question se pose effectivement parce que normalement, tout individu qui relève de l'URSSAF relève d'une URSSAF. Alors URSSAF, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales. Et donc, ces organismes sont nombre de 21. Il y a 21 URSSAF. Et l'Union qui est dans leur nom résulte du fait que à l'origine, au tout début de la sécurité sociale, chaque branche de la sécurité sociale était en charge de la collecte des cotisations concernant le risque qu'elle assumait. Alors concrètement, la sécurité sociale, je rappelle, tout le monde en parle avec émotion, c'est le Conseil national de la résistance, c'est 1945, c'est le début de cette aventure de
l'État. Je vous sens ému, Jean-Marc.
Oui, absolument. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on avait défini effectivement un certain nombre de règles pour la distribution des prestations. On avait assez mal défini les règles qui devaient concerner la collecte des sommes à redistribuer.
C'est très français, ça.
C'est assez français. On commence par dépenser, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va dépenser et surtout qui va payer. Et en 1952, le Parlement est saisi d'un projet qui consiste à organiser la collecte des fonds et à créer effectivement dans chaque département une union où tous les gens qui collectent de l'argent pour le redonner à la sécurité sociale seraient regroupés. Alors 1952, c'est la 4e République. Sous la 4e République, on a eu beaucoup de projets, beaucoup de gouvernements et beaucoup de gouvernements et beaucoup de projets. Ça finit par peu de réalisations. Il y avait d'autres soucis et le dossier s'est éteint progressivement, s'est mis en sommeil jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle qui a réactivé le dossier. Alors on crée officiellement les URSSAF en mai 1960 avec l'idée que il y aura un interlocuteur unique. C'est toujours l'idée du guichet unique, qui est aussi une vieille idée auquel sont confrontées les entreprises. L'idée qu'il y a un seul interlocuteur sur tout un tas de dossiers. Donc là, il va y avoir un seul interlocuteur sur toutes les sommes dues par les entreprises, les particuliers, toute organisation susceptible de verser de l'argent à la sécurité sociale. Un seul interlocuteur. Et en fait, tout ça va être véritablement organisé par un personnage. Normalement, il est prévu qu'on nous projette son portrait. Son personnage, c'est Jean-Marcel Jeanneney. Donc Jean-Marcel Jeanneney, c'est une grande famille d'hommes politiques français, originaire, le voilà.
Pour ceux qui nous suivent à la télé ou sur le web, voilà, magnifique Jean-Marcel Jeanneney.
C'est un personnage, donc il est célèbre pour son nœud papillon. Il est le fils de Jules Jeanneney, qui a été président du Sénat, et le père de Jean-Noël Jeanneney, qui a été ministre, notamment à la période de François Mitterrand. Toute une lignée. Il est célèbre aussi pour avoir été candidat aux élections contre Pierre Mendès France et de symboliser en quelque sorte une forme de gaullisme de gauche qui se sentait proche de Mendès France et qui s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles ils étaient en opposition. Et en 1967, il va superviser la réforme de la sécurité sociale qui va consister à créer des branches autonomes. C'était avant, il y avait une caisse de sécurité sociale. Là, on va créer l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, les allocations familiales, les accidents du travail. Et on va mettre en parallèle de tous ces organismes une caisse, l'ACOS, l'agence centrale des organismes, l'agence comptable des organismes de sécurité sociale, qui va collecter les fonds. Et cette caisse va devenir en quelque sorte l'élément fédérateur de toutes les URSSAF. Et puis on va de réduire le nombre d'URSSAF. Maintenant, il n'y en a plus que 21. Et on va engager un vaste programme d'informatisation, de préparation à l'efficacité technique de la collecte par les réformes. Alors, Jean-Marcel Jeanneney va avoir un destin un peu triste, parce que après avoir été le grand réformateur de la sécurité sociale, il sera en charge de l'organisation du référendum de 1969 sur la décentralisation et sur la réforme du Sénat qui sera perdue par le général de Gaulle. Alors aujourd'hui, l'ACOS ne s'appelle plus l'ACOS, ça s'appelle URSSAF Caisse Centrale. Et donc il y a 13 500 personnes qui travaillent dans ce réseau de collecte de tout un tas de choses, parce que ça collecte des cotisations sociales, mais ça collecte aussi la CSG et la CRDS, qui sont censés être des impôts. Les juristes sont plus ou moins en débat là-dessus, mais normalement, ce sont des impôts.
Des prélèvements, on va les appeler comme
ça. Des prélèvements, c'est plus simple.
Bon, je suis obligée de vous poser cette question qui a fait débat à l'intérieur de la rédaction BFM Business. Dans URSSAF, il y a URSS.
Alors, il y a dans URSSAF, il y a URSS, d'ailleurs, il y a un certain nombre de spécialistes des problèmes sociaux, spécialistes de la sécurité sociale, spécialistes effectivement de toute cette évolution de l'État-providence, qui se plaisent à dire qu'il faudrait être cohérent et aller jusqu'au bout et supprimer le AF et dire simplement c'est les unions de recouvrement de la sécurité sociale, et à partir de là, ça ferait URSS, et ça évoquerait ce à quoi correspond l'état d'esprit qu'il y a derrière l'État-providence et l'État-providence à la française. Alors, c'est vrai que quand on regarde d'ailleurs les évolutions des URSSAF, c'est à la fois des organismes qui se veulent de plus en plus proches de leur mandat. Ce sont des organismes qui ont de plus en plus de responsabilités, mais c'est aussi des organismes qui, par exemple, défendent en ce moment le statut de salarié contre le statut d'indépendant, qui considèrent que les gens qui sont en situation d'aller voir des plateformes comme Uber sont des gens qui sont en réalité des salariés déguisés. Mmh. Et donc, on accuse les URSSAF d'avoir un côté URSS, en ce sens qu'elles adopteraient par certains côtés le point de vue d'un certain nombre de représentants d'une gauche un peu conservatrice qui serait l'héritière de l'état d'esprit de l'URSS.
13 500 fonctionnaires ?
Non, alors justement, c'est intéressant. Bonne question. Les agents de la sécurité sociale et donc les agents de l'URSSAF sont des agents qui ont des missions de service public, mais ce sont des agents qui sont de droit privé. Il y a une convention collective. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale était née dans un état d'esprit mutualiste. Mmh. Donc ce grand Conseil national de la résistance, dont nous parlons toujours avec émotion, moment d'émotion.
Mettez votre main sur votre cœur.
Oui, le Conseil national de la résistance, grand moment d'émotion, a vu le jour, donc a théorisé la création de l'État-providence à l'époque où le Royaume-Uni, lui, était en train de constituer, notamment au travers du Service national de santé, un système qui était directement lié à l'État. Et donc, dans les débats qui ont été développés à ce moment-là, il a été décidé qu'on n'adopterait pas ce point de vue qu'on appelle un point de vue beveridgien, c'est-à-dire un point de vue où vraiment l'État-providence est une composante de l'État tout court, et on reviendrait à une vision plus mutualiste, plus proche de ce qu'était effectivement la solidarité et la redistribution avant qu'on crée les États-providence, c'est-à-dire à l'époque où c'était les églises et les religieux qui s'en occupaient.
Vous allez dire à l'époque où ça marchait, c'est ça ?
À l'époque où ça marchait pas si mal que ça, effectivement, l'église a derrière elle un certain nombre de succès. Je dis pas que la sécurité sociale, entre guillemets, du XVIIIe siècle était une perfection, mais tous ces hospices, tous ces hôpitaux, tout ce système qui a conservé d'ailleurs des traditions, qui a conservé des références lexicographiques. Tout ce système fonctionnait avec une certaine efficacité. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, il y a un grand économiste qui s'appelait Villeneuve de Bargemont, qui a écrit un livre qui s'appelle « Économie politique chrétienne » et qui est considéré par beaucoup comme le premier penseur de la sécurité sociale en Europe. Et le premier penseur non socialiste. C'est-à-dire, il prétendait affirmer que une sécurité sociale redistributive efficace ne serait pas liée à l'État, mais serait véritablement liée à un état d'esprit, plutôt qu'à l'État tout court.
On va finir sur cette jolie formule, liée à l'état d'esprit et pas à l'état tout court. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel de nous avoir emmenés aux origines de cet acronyme qui anime le quotidien des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises au masculin et au féminin, les URSSAF, mais aussi de vous peut-être qui utilisez le CESU en tant qu'employeur ou en tant qu'employé.
Oui, oui, l'URSSAF a énormément de missions. C'est-à-dire que il y a environ 600 milliards de cotisations sociales qui sont récupérés par les URSSAF, mais son travail par les URSSAF, leur travail ne se limite pas à ça.
Voilà l'héritage économique français. On est remonté jusqu'à 1945 et même avant quand vous nous commenciez à nous parler de
Villeneuve de Bargemont qui écrivait sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet.
Jean-Marc Daniel, notre coach, notre professeur, tous les mardis dans Tout pour investir, à retrouver en podcast et en replay. Si vous aussi vous avez une suggestion d'expression ou un mot qui anime votre quotidien d'investisseur, d'entrepreneur, de salarié, de patron, vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn en message privé. On marque une petite pub, après on continue à s'occuper de votre capital. On va parler immobilier, notamment de production d'énergie solaire. Tiens, si vous êtes un particulier, peut-être que ça vous intéresse. Et puis on réfléchira à ce qu'on appelle les placements réels. Est-ce qu'ils rassurent ? Que pensez-vous des montres ? De l'investissement dans le vin ? De l'investissement peut-être dans une forêt ? Ou même dans les baskets, tiens. Et puis on finira l'émission en parlant un petit peu d'art avec la Maison Christie's. Ce sont les 100 ans du surréalisme. Où en est le marché de l'art en France ? Comment se positionner comme un investisseur ou wannabe investisseur ? Réponse à suivre, à tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui parle d'argent sans tabou, qui s'occupe de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours de 10h à midi. On est également en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez dans un autre fuseau horaire, peut-être depuis l'étranger. Au programme de l'heure à venir, l'immobilier, comme tous les jours, d'ici une dizaine de minutes, avec Marie-Cœur de Roy et notre invité, le président de Big Mat France. On va parler évidemment du marché de l'immo et puis du déploiement de l'éolien. Tiens, vous êtes particulier. Ça vous intéresse, la production d'énergie solaire, c'est au programme de notre débat. Le question-réponse du jour, on parlera d'incertitude politique, oui, encore, mais de manière concrète, en passant en revue les placements dits réels. Ce sont les montres, ce sont les voitures peut-être, le vin ou encore la forêt ou les baskets, tiens, pour les modeux. Est-ce que c'est rassurant de placer de l'argent dans ces objets, dans ces placements qu'on appelle réels? Et puis on investira dans l'art pour sortir un peu justement de cette incertitude politique qui nous épuise. Le point sur l'état du marché de l'art avec la maison Christie's. On parlera aussi du surréalisme, mouvement qui fête ses 100 ans. Tiens, à partir de combien peut-on posséder une œuvre d'un artiste surréaliste? Réponse vers 11h45. Au programme, il y a vous. Vous nous écrivez, vous nous suivez. On est connecté sur LinkedIn en message privé ou bien sur l'adresse de l'émission direct@bfmbusiness.fr. Nous partons rejoindre Antoine du côté d'Euronext à La Défense pour faire le point sur une séance dans un climat quand même plutôt négatif. À tout de suite. Climat négatif, mais disons, cher Antoine, qu'on limite la casse en ce milieu de matinée.
Oui, c'est vrai qu'on a perdu jusqu'à 1% sur la première heure de cotation. Puis là, effectivement, on limite les dégâts. -0,5% pour le CAC 40 qui est à 7523 points. Alors, légère surperformance des valeurs de la tech, puisque l'Euronext Tech Leaders ne perd que 0,36%. À noter que Francfort est en baisse plus prononcée, -0,8% et -0,7% pour l'Eurostox 50. Alors, c'est vrai qu'on a eu tendance à souffler, à reprendre un petit peu d'énergie positive hier. Maintenant, ça prouve aussi que l'instabilité n'a pas lâché les marchés. Et d'ailleurs, ça, on peut le voir du côté des rendements obligataires. Le marché obligataire reste quand même très, très tendu. On l'a dit, ça s'est étendu très fort du côté de la dette allemande hier. Mais la tension reprend très fort sur la dette française désormais, puisqu'on est à 3,36 sur la dette à 10 ans. On se rapproche vraiment du cap fatidique des 3,4%. Alors que ça se détend côté allemand, le Bund à 10 ans est sous les 2,6% de rendement. On est à 2,59. Donc le spread, l'écart se creuse à nouveau de manière très sensible. Du côté des valeurs qui signent les plus fortes baisses, alors à noter le secteur de la restauration collective qui est singulièrement attaqué ce matin, tout simplement parce qu'il a beaucoup, il a beaucoup grimpé hier. Elior subit des prises de profit immédiates à -4%, 2,68. On a Sodexo aussi -5,37 à 81 €. Du côté du CAC 40, c'est Eurofin Scientifique qui recule de 3,9% à 44,12 €. Singulière pression négative autour de Michelin aussi, et ce depuis le début de la séance. Le titre perd là 3,6% à 34,79 €, et c'est l'ensemble du secteur auto qui est un petit peu attaqué, puisque Stellantis recule de 2,9% à 18,10. En revanche, Renault grimpe d'1%, 48,75 €. Téléperformance signe la plus forte hausse du CAC à +4,13, 107,50 €. Et puis on a Total Energy qui gagne 0,9% à 64,19 €. Je vous le disais il y a une heure, ça sent les 87 $ pour le Brent de mer du Nord. Ça y est, on l'a dépassé. 87,12 $ pour le pétrole Brent. On est sur les plus hauts de fin avril et ça va alimenter sans doute encore toute une série de spéculations autour des pressions inflationnistes ces prochains mois. Le CAC 40 donc -0,48%, on est à 7528 points. Du côté de l'euro face au dollar, 1,071.
Voilà le point marché d'Antoine. On limite la casse, voilà, mais quand même climat assez négatif. Écoutez, c'est l'heure de votre histoire. Antoine, vous allez nous parler de crypto.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
De crypto, mais surtout du géant japonais Sony, qui s'apprête visiblement à frapper un coup décisif du côté des technologies crypto. Racontez-nous.
Ben oui, en fait, c'est vrai que depuis des mois et des mois, on parle des Magnificent Seven, de la high-tech américaine, des Google, des Apple, etc. Bon, reste aussi la high-tech des boomers comme moi, des vieux. Sony, ça reste quand même un nom, une référence. Le géant japonais qui est toujours à la pointe de la haute technologie. Alors, c'est vrai que des initiatives autour de l'IA, Oui, ils doivent en avoir au milieu d'un fatras d'autres trucs, parce que Sony s'occupe un peu de tout, c'est une compagnie à tout faire hein, au niveau high-tech. Mais ils se sont dit que plutôt que d'aller frapper où tout le monde a déjà frappé, où tout le monde est attendu, c'est-à-dire sur le terrain de l'IA, bah, il était peut-être temps de regarder du côté des secteurs un petit peu délaissés. Quand on est chez Sony, on ne fait jamais rien comme tout le monde, hein, et c'est ce qui a toujours fait la force de ce groupe. Et c'est vrai que là, il frappe un coup singulier autour du Web 3 et de la technologie crypto. Alors déjà, ils vont commencer par relancer Whalefin, qui est une grosse plateforme d'échange active sur une cinquantaine de cryptos. Le groupe l'a en fait racheté l'année dernière à Amber Japan et c'est resté un petit peu sous la couverture radar. Whalefin, pour autant, est assez connu. Hein, c'est un sponsor foot assez important hein, sur les maillots de l'Atlético Madrid et de Chelsea. Hein, on voit leur nom. Mais c'est aussi amené désormais à devenir la tête de pont de Sony pour une vraie offensive sur le marché crypto. Le groupe ayant déclaré qu'il allait relancer la plateforme via une application toute nouvelle et sous un nouveau nom, S-Blocks, pour donc proposer du service de trading et de la conservation crypto. Une initiative importante qui est en fait de nature un peu structurer les investissements crypto de Sony. Le groupe investit parallèlement dans tout un tas de startups, développe la technologie blockchain avec des partenaires et a même déposé pas mal de brevets en matière de NFT, hein, ces fameux jetons non fongibles, qui seraient interopérables à travers plusieurs types de jeux vidéo et de consoles vidéo, y compris les siennes, hein, bien sûr, ils ne sont pas fous. Bref, on sent que déjà ça fourmille hein, chez Sony autour du Web 3 et de la technologie crypto, et puis que ça infuse tout doucement, et S-Blocks, le nom de la nouvelle entité, va avoir un rôle central là-dedans pour vraiment orienter l'initiative de Sony, sans doute hein, autour du Web 3 et du monde du gaming dans un premier temps, mais une offensive peut-être un petit peu plus large. N'oublions pas que Sony a une sacrée force de frappe commerciale et des taux de pénétration assez intéressants sur les clientèles, justement des boomers comme moi.
Merci beaucoup, cher Antoine, pour ce regard sur cette histoire crypto. Les Japonais en embuscade. PlayStation, c'est pas très boomer quand même. Hein. Je rappelle que Sony, c'est la PlayStation quand même, Antoine. Ouais.
Ah non, on est d'accord. Mais c'est les vieux de la vieille, de la high-tech, on va dire.
Les puristes, peut-être. L'histoire d'Antoine, merci beaucoup pour ce décryptage. On continuera à parler crypto, tiens, en fin d'émission avec Amaury qui viendra faire son point crypto. Et puis, on a reçu une question de Damien, qu'on salue, qui nous demande ce qu'on pense du titre Fnac Darty, quel est l'objectif de cours. Damien, je transmets votre question à l'équipe de Guillaume Sommerer dans BFM Bourse, qui vous répondra avec toute sa fine équipe cet après-midi. Vous restez connectés, il est temps de parler immobilier avec Marie Cœur de Roy et notre invitée.
Pour investir sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business, Laure Clauzier.
Recherche Talent, c'est la seule émission qui fait passer un entretien d'embauche aux chefs d'entreprise. Ils croient en leur boîte, ils ont envie de vous recruter, mais vous, est-ce que vous avez envie de les rejoindre? C'est toute la question et c'est toutes les semaines sur BFM Business.
Recherche Talent avec Laure Clauzier, tous les mercredis à 22h sur BFM Business. Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO et de l'énergie. Peut-être que vous allez fabriquer votre propre énergie. Écoutez-nous bien. Marie Cœur de Roy est parmi nous. Bonjour, chère Marie.
Bonjour, Lorraine.
Et nous sommes avec Fabio Rinaldi, président de Big Mat France. Bonjour, Fabio.
Bonjour.
Au programme de notre émission, on va être vert.
Oh, j'adore être verte. Ouais, on va parler rénovation, puisqu'on en parle assez peu dans le débat public, mais on en parle beaucoup sur BFM Business.
Ah oui.
Très bien. Avant de démarrer, parce qu'on va parler aussi des énergies alternatives, puisque c'est un peu le but de votre présence ici, sur ce marché global de la rénovation, il se porte comment ce marché? Parce que entre le besoin des Français de payer moins cher leur facture d'électricité et les obligations de rénovation énergétique dans le parc locatif, clairement, on en est où aujourd'hui? Est-ce que les Français rénovent? Est-ce qu'ils ont toujours autant envie, plus envie, moins envie? Ça en est où là?
Alors, les Français rénovent, effectivement. On est sur un marché de la rénovation qui est globalement légèrement positif, entre 0 et plus 2%. Donc on va se dire, c'est plutôt bien. Maintenant, ça ne compense pas, et dans le panorama économique global, ça ne compense pas l'ensemble de la baisse de l'activité de la construction. Donc oui, il y a plutôt une envie sur la rénovation, un accent sur la rénovation énergétique depuis quelques années, notamment depuis 2 ans, depuis l'augmentation, la flambée des prix de l'énergie.
Ouais.
Maintenant, les Français savent plus non plus toujours à où aller. Est-ce que je vais sur ma prime rénov? Est-ce que j'ai droit à des aides? On est sur des dispositifs qui évoluent beaucoup et le contexte récent fait encore.
Vous me disiez, alors, hors antenne, on discutait tous les deux, combien il y a eu de modifications entre l'histoire de DPE, de ma prime rénov, des subventions, tout ça. Il y en a eu combien là ces dernières années?
Alors ma prime rénov, c'est 12 modifications en 4 ans. Donc imaginez-vous, vous voulez faire la rénovation de votre bien, vous ne savez, à un moment, à un instant T, vous avez un besoin, vous avez des droits, mais le côté lenteur administrative et puis complexité du dispositif, et puis ce dispositif change. C'est ce qu'on a vécu en début d'année 2024. Ouais. On a vu, le gouvernement a vu une chute de 40% des dossiers. Tout de suite, on a dit, allez, il faut maintenant ouvrir beaucoup plus. Donc ça, l'instabilité, quoi qu'il en soit, sur ce domaine en particulier, bah, c'est très mauvais pour le consommateur français.
Vous nous rappelez ce que fait Big Mat ?
Alors Big Mat, c'est une coopérative, donc leader européen dans la distribution des matériaux de construction. Donc on est en plein cœur du sujet.
Ouais, on est en plein cœur du sujet. Et vous nous disiez justement que, en réalité, la rénovation, qui est légèrement positive ou au moins stable, elle compense aussi l'effondrement du marché de la construction.
Alors, on est effectivement sur une baisse. Aujourd'hui, le marché des matériaux de construction sont environ moins 15%. Ouais. Donc, si on considère que la construction, c'est le bâtiment, et que c'est quand même quelques centaines de milliers d'emplois, c'est plutôt inquiétant. Voilà. Donc, moins 15%. Et puis, si on regarde les perspectives de logements autorisés, logements commencés, des ventes, nous sommes entre moins 20 ou moins 40%. Donc, c'est vraiment préoccupant. Et ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est un, que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'annonce où ce sujet n'a pas été réellement pris au sérieux. Et puis, avec les changements récents dans les perspectives ou dans les programmes, quel que soit le parti, le sujet n'a pas du tout évoqué.
Et alors justement, c'est un peu, j'ai envie de dire, au business, aux acteurs des secteurs concernés de prendre le relais. Et vous, en relais de croissance, vous voulez mettre l'accent sur l'énergie solaire.
Alors chez Big Mat, effectivement, la rénovation, c'est notre travail depuis plus de 40 ans. Que ce soit rénovation globale du logement, rénovation énergétique. Effectivement, depuis 2 ans, il y a on l'a connu en 2008, ouais, avec le Grenelle de l'environnement. Il y a eu un pic sur le photovoltaïque et puis ça s'est un peu calmé. Là, on sent quand même un changement dans les comportements. Les Français ont envie d'une énergie moins chère et durable. Voilà. Donc, avec cette augmentation en 2 ans de 40% du coût de l'électricité, de l'énergie, ouais, eh bien, on commence à réfléchir à des solutions où les prix ont commencé à baisser sur le photovoltaïque. Et puis, vous allez faire une économie jusqu'à 40% environ sur votre énergie. Et on a de plus en plus d'électricité, nos appareils connectés, nos véhicules, les voitures qu'il va falloir recharger. Donc, c'est vraiment un investissement et une solution qui est plutôt gagnant-gagnant pour le consommateur.
Mais c'est drôle parce que vous voulez en faire un relais de croissance. Effectivement, moi, je reçois tous les jours des dizaines de mails de gens qui proposent, qui vendent, qui vont chercher des panneaux solaires, qui vous proposent de vous faire l'installation, etc. Pourtant, c'est pas aidé le panneau solaire. C'est pas aidé, ma prime rénov, j'ai pas droit, moi.
Alors, c'est pas aidé, il y a des aides. Des aides, si vous êtes par exemple sur un maximum de 3 kW crête, c'est le minimum dans l'installation. Vous avez une aide possible de l'État, vous avez quelques aides. Mmh. C'est pas ce qui est le plus aidé, c'est vrai. Par contre, c'est ce qui s'installe assez facilement. Et puis, on a vu les programmes qui sont aidés sont pas forcément les plus. Ils ouvrent notamment la porte à des abus, ouais, dans les installations ou autres. Donc, attention. Là, ça clignote en rouge dans tous les mails, dans tous les SMS, les coups de fil que vous recevez.
Le SMS, d'une manière générale, a l'air tout rouge. Hein.
Alors, écoutez, j'en ai encore eu un hier où on vous dit, voilà, je suis pas là pour vous vendre du panneau solaire, mais vous avez une maison. Donc, tout de suite, là, attention, parce que on a été échaudé lors des dispositifs en 2018-19 sur l'isolation à 1 euro. Mmh. Attention, le panneau solaire, c'est ce qui peut se profiler. Moi, je vous invite à aller vraiment avec des acteurs sérieux implantés depuis longtemps, comme Big Mat, ça fait plus de 40 ans. Et même derrière, si vous avez des questions, vous pourrez retourner après votre installation. Donc, voilà, c'est vraiment le bouche à oreille également qu'on recommande. Voilà ce que je pourrais vous dire sur le photovoltaïque.
Fabio, Marie, dans un souci de déchiffrer l'économie avec un grand E dont on parle, les panneaux solaires en quelques chiffres clés pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous ?
Aujourd'hui, ce sont environ 400 000 installations en France et RTE estime que nous monterons que nous serons environ à 4 millions en 2035. Donc c'est un dispositif, nous on considère que en 2035, en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose qui va continuer de doubler peut-être chaque année pendant 2-3 ans Après, on va voir ce qui
mais
va
mais
se passer.
Mais comment ça se passe très concrètement pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ont une maison? C'est facile d'installer des panneaux solaires? Ça me coûte combien? Ça va me rapporter combien? Parce que c'est ça le sujet. Souvent, on parle panneaux solaires et on nous dit ouais, mais vraiment, c'est compliqué. La toiture.
C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est simplement. Alors, dans notre cas chez Bigmat, on va d'abord faire un audit.
Ouais.
Effectivement, vous avez raison. On va quand même vérifier l'état de votre toiture. On va calculer votre besoin en consommation d'énergie et on va calibrer de ce fait le type de panneau, le nombre de panneaux solaires, la surface.
Mmh.
Et ensuite, on vous met en relation avec un artisan RGE. Donc là, c'est une première qualification. Et là, ça vous ouvre à d'éventuelles aides pour pouvoir réaliser l'installation. Voilà. Et vous avez une garantie de 25 à 30 ans.
Sur le matériel.
Donc on a, je dirais, une filière qui est de plus en plus structurée, en tout cas au niveau de la distribution. Et c'est ce à quoi on travaille chez Bigmat sur ce nouveau marché qu'on considère plutôt durable cette fois-ci.
Je vais faire ma journaliste un peu Arnaud Montebourg. Je mets ma marinière, mon béret. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'acheter des panneaux solaires français? Si on veut s'équiper de manière française ou européenne, est-ce que c'est possible? On dit souvent que la filière est du photovoltaïque est très très chinoise. Ouais.
Alors la réponse est non. Vous n'aurez pas de panneaux solaires français puisque la dernière usine qui était implantée près de Nantes a fermé ses portes, tout simplement parce que effectivement, les dispositifs d'aide à la production ou en Chine ou en Asie, ne permettent plus aux entreprises françaises d'être compétitives. Donc là, je lance peut-être un appel, puisqu'on est dans une phase de réindustrialisation en France, on le voit, à nos autorités, de dire, aidons aussi, nous, en France, nos entrepreneurs, nos industries, à créer, fabriquer du panneau solaire pour la consommation, notre propre consommation ici en France.
Mais du coup, ça nous coûte combien, en fait, puisqu'on importe nos panneaux solaires? Est-ce que ça nous coûterait moins cher si on avait une filière française?
Je ne sais pas si ça coûterait moins cher. Un, vous auriez un bilan carbone quand même beaucoup plus favorable.
C'est quand même le but.
Parce que vous évitez quand même le transport depuis l'Asie des produits finis. Puis vous créez de la richesse avec de l'emploi en France. Donc, même à coût équivalent, et je dirais même peut-être légèrement supérieur, mais banco, il faut le faire en France. Voilà.
Oui, mais pourquoi on est aussi chauvin sur, par exemple, la voiture? On veut une voiture électrique française et on n'applique pas ça à un des dispositifs du verdissement de notre pays. C'est un paradoxe quand même intéressant.
Alors, peut-être que ça va venir. On parle pas de la réindustrialisation depuis très longtemps.
Ouais.
Les fabriques de bornes électriques, tous ces produits-là, c'est très récent. Ça a un an et demi. Donc, j'espère que le panneau solaire va être dans les radars des prochains gouvernements, en tout cas.
Moi, j'ai une question à vous poser. Alors, c'est mon prisme d'habitante d'une grande ville. On parle énormément, évidemment, des panneaux solaires et de la facilité que ça a, même si, évidemment, il faut un audit pour voir la structure de votre toiture. Mais maintenant, il y a des nouveaux acteurs qui sortent le plug and play, on en a parlé à l'antenne, espèce de panneau qu'on peut brancher soi-même, on a besoin quasiment de personne pour le faire, donc ça facilite l'installation de panneaux solaires dans des endroits où ce serait peut-être pas forcément facile de les installer sur la toiture. Je pense aussi au collectif, à quel moment ça va pouvoir se développer? Est-ce qu'un jour on va pouvoir installer sur les façades des immeubles? Est-ce que vous réfléchissez à comment finalement démocratiser, mais vraiment à l'extrême, le panneau solaire?
Alors nous, chez Bigmat, nous sommes plus sur le logement individuel. Maintenant, le collectif, c'est à prévoir en amont de la construction, sur les toits tout simplement.
Ouais.
Vous avez aujourd'hui des programmes immobiliers qui prévoient un minimum d'autoconsommation, notamment pour l'eau chaude, à travers une installation de panneaux solaires sur les toits. Vous avez,
mais sur l'existant, on parlait tout à l'heure aussi du zéro artificialisation net, la lutte contre l'artificialisation des sols, qui fait quand même qu'on construit de moins en moins de maisons, notamment, plus avec la disparition du prêt à taux zéro, ça n'aide pas à faire construire sa maison.
C'est vrai.
Est-ce que finalement, le relais de croissance, il ne serait pas aussi pour trouver une solution technique et urbanistique pour installer du photovoltaïque dans nos grandes villes?
C'est effectivement, vous avez raison, c'est une autre piste qui n'a pas encore été étudiée aujourd'hui, mais qui mérite réflexion, notamment avec les promoteurs immobiliers ou les bailleurs sociaux.
Par exemple. Juste une dernière question.
Oui.
Est-ce qu'avec l'installation, on repart sur moi, petite maison individuelle, je me fais installer des panneaux solaires?
Si vous avez une petite maison individuelle, dans le 19e ou 20e, Marie, vous perdez complètement votre statut de petite.
Oui, mais vous savez très bien que ce n'est pas
court.
Le cas, de toute façon. Mais admettons, dans un rêve idéal, tout ça. Est-ce que je peux finir, grâce aux panneaux solaires, à une très bonne installation, à ne plus avoir à dépenser le moindre euro et à produire ma consommation en énergie totalement?
Alors, non seulement vous pouvez produire votre consommation, mais vous pouvez aussi revendre votre surplus de consommation. Donc aujourd'hui, vous avez un bilan qui peut être plus que positif. Donc c'est un investissement qui est sur plusieurs années, mais au bout de 8 ou 10 ans, ça vous coûte presque plus rien. Et en plus, vous pouvez revendre votre énergie.
Donc ça peut me rapporter de l'argent.
Donc c'est plutôt un investissement intéressant.
Mais moi, j'ai une dernière question toute bête. Pardon hein, de faire un peu mal à Michu, mais on sort d'un printemps quand même très très pluvieux, en tout cas du côté de Paris. Pardon pour nos auditeurs qui bénéficient de plus d'ensoleillement. Est-ce que ce que vous venez de dire est applicable et le cas là dans le temps, la météo, pour ne pas parler de climat déréglé, de météo capricieuse qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers
Absolument.
Mois.
Alors, lorsque nous réalisons une étude chez Bigmat, on réalise en fonction aussi de l'ensoleillement. Donc, évidemment, dans la région sud, vous aurez un meilleur ensoleillement et une meilleure production d'énergie que dans le nord. Mais vous avez tout intérêt aussi à mettre du panneau solaire dans le nord. Il y a un très gros programme, d'ailleurs, de fermes solaires, je crois, en Finlande.
Ouais,
Vous donner une petite idée. Donc, entre la Finlande et l'île, je pense qu'on peut en mettre. C'est simplement le rendement qui sera peut-être un peu meilleur dans le sud que dans le nord. Voilà.
Auditeur lillois, lensois ou tout simplement du nord. Voilà. Merci beaucoup, Fabio Rinaldi, pour cette expertise partagée, président de Bigmat France. Merci, Marie-Cœur de Roy. Cette question de voilà, faut-il des aides pour finalement passer le cap de produire sa propre énergie, solaire ou autre, ou photovoltaïque. Cette question aussi, à un moment où peut-être que pas mal d'aides peuvent disparaître dans ce contexte politique incertain. Cette séquence très intéressante est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous restez avec nous. En parlant d'incertitude, on va vous parler de réassurance avec des placements dits réels. On va parler d'investissement dans la forêt, dans les montres, dans le vin, sans aucun rapport, et aussi pourquoi pas dans les baskets. Est-ce que c'est le moment d'investir dans ces placements? Vous semble-t-il rassurant? Sont-ils intéressants financièrement et fiscalement? Et quels sont surtout les placements plaisir? Parce qu'on va parler de plaisir, vous l'avez compris. À éviter. Christian Fontaine et l'expertise du magazine Le Revenu arrivent pour répondre à vos interrogations. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles et on répond à vos questions tous les jours vers 11h30. C'est mardi. Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu, est parmi nous. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
On va parler d'incertitudes, mais aussi de choses qui rassurent. On va s'intéresser avec vous, Christian, à ce qu'on appelle les placements réels. Exemple, le vin, les montres, la forêt, les baskets. Bref, des choses quoi ? Tangibles. Est-ce que c'est correct ma description ?
Non, tout à fait, des placements tangibles. Et c'est vrai qu'en période d'incertitude avec un S, et ben ces placements rassurent puisque ce sont des placements réels. Au minimum, vous vous dites, si tout part entre guillemets à volo, ben il vous restera toujours votre voiture de collection, votre montre de luxe, votre forêt, donc alors vos caisses de bons Bordeaux ou autres.
Fauché mais emmantelé, quoi.
Voilà. Et donc, ce sont des biens réels. Il y a une double caractéristique de tous ces placements. Ce sont des biens réels, des biens tangibles. Et puis aussi, peu ou prou, ce qu'on constate, c'est que sur le long terme, leur prix progresse comme l'inflation. Et ça vous a pas échappé. D'ailleurs, Christine Lagarde l'a encore rappelé il y a quelques heures. La lutte contre l'inflation n'est pas terminée au niveau de la zone euro. Et donc, ce sont des placements dont peu ou prou, le prix sur longue période progresse comme l'inflation. Donc, ce sont des placements qui conservent votre pouvoir d'achat. Et ce sont aussi des placements de diversification, des placements qui vous permettent de vous faire plaisir. Donc c'est vrai que en période d'incertitude, en fait, on voit que ce type de placement fonctionne, et puis surtout qu'il y a de nombreuses offres, que les offres vont se multiplier et qu'il convient d'être excessivement vigilant sur la matière, sur le sujet.
Voilà pourquoi on s'intéresse à ces placements, parce que au-delà du côté sympathique de parler de ce genre de d'investissement, effectivement, vous l'avez dit, leur prix augmente comme l'inflation, donc ce sont littéralement des placements qui fonctionne. Alors, la question qui vient ensuite, c'est comment justement ne pas se faire arnaquer et ne pas se tromper, parce que c'est bien joli par exemple de mettre de l'argent dans une montre, mais comment on est sûr que c'est un investissement, un placement et pas juste, comment dire ça ? Un kiff.
Alors, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ce type de placement réel rassure, ben, en période d'incertitude, il y a de plus en plus d'arnaques. Et ça, je dirais dans tous ces rapports, le gendarme des placements le met clairement en avant. Je pense qu'il y a...
Nous parler des diamants.
Je vais vous parler des diamants, mais avant ça, un petit point méthodologique sur comment distinguer la bonne affaire, je dirais, du mauvais plan. La première chose qui doit vous alerter, c'est toutes les promesses de rendement mirifique. En fait, il n'existe pas de rendement élevé, sans risque élevé. Donc, si on vous propose d'investir dans un placement tangible, quel qu'il soit, avec une promesse de rendement pire garantie, élevée et pire garantie autour de 7 à 8%, ben, fuyez, hein, il n'existe pas de pseudo-marché, des placements réels réservés à une élite parisienne qui pourrait placer à 7 ou 8%, alors que vous, vous n'avez accès qu'à 1 ou 2 ou 3% pour les livrets réglementés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut toujours s'interroger sur la liquidité de ce type de placement. Investir dans du diamant d'investissement, dans du bois exotique, dans des métaux précieux, dans des vieux manuscrits, ça se fait assez facilement. Ensuite, faut-il savoir aussi qu'est-ce qui se passera le jour où vous voudrez récupérer votre argent. On dit en matière de placement qu'il faut toujours s'interroger sur la sortie. Et c'est encore plus vrai pour les placements réels, les placements tangibles. Enfin, il faut, je dirais, s'interroger sur l'ancienneté et la solvabilité de la société qui vous propose le dit placement. Il faut savoir que ce que vous vous appelez placement exotique, ce que vous vous appelez placement atypique ou placement réel, en fait, l'AMF parle d'investissement en biens divers. Et depuis la loi Sapin 2 de 2016, il y a une obligation de détenir un numéro d'enregistrement auprès de l'AMF pour vendre donc ces fameux biens divers. Et figurez-vous que aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, au 1er au 2 juillet, il n'y a que 9 intermédiaires qui sont autorisés à vendre et à proposer des biens divers, c'est-à-dire avec une promesse de rendement. Il y en a 7 dans le vin, 1 dans la forêt et 1 dans le domaine de l'élevage. Alors que si, oui, 9, c'est un chiffre à mettre en rapport avec, je dirais, le nombre de réponses que vous obtenez si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré placement atypique, placement exotique, placement réel, placement de diversification.
Oui, bon ratio, ouais.
D'un côté, des millions de réponses, de l'autre, on en colonne 9 établissements autorisés à proposer ce type de produit. Donc, oui, il y a du potentiel, oui, il faut s'intéresser aux placements réels, mais c'est vrai qu'en période d'incertitude comme aujourd'hui, les offres vont se multiplier, les arnaques aussi vont se multiplier, donc la prudence et la vigilance s'imposent.
Vous anticipez une hausse des arnaques dans ce contexte où les investisseurs cherche un petit peu à se rassurer, peut-être à protéger. Alors, vous avez pointé du doigt les arnaques, vous nous avez donné une grille d'action pour ne pas tomber dans le panneau. Maintenant, on parlait de plaisir, on parlait de kiff. Il y a des placements que vous, au revenu, vous dites qu'il faut éviter.
Alors, vous parliez tout à l'heure des diamants d'investissement. C'est vrai que j'en parle souvent sur votre antenne. C'est un placement.
On a un peu l'impression que vous êtes fait avoir avec ces diamants. Parce que c'est vrai que vous en parlez souvent. Vous avez dû acheter des diamants il y a quelques années.
Alors, c'est pas le cas, mais vous citez souvent le revenu et vous avez raison. Et en la matière, c'est une famille de placements que le revenu dénonçait déjà dans les années 70. C'est vous dire que ça date pas d'hier les arnaques sur ce type de biens. Et donc, l'une des raisons, c'est que c'est un marché totalement opaque, en fait. Alors, c'est un marché qui fait rêver, mais les caractéristiques ne sont pas là pour en faire un bon investissement. C'est un marché opaque. Il y a autant de qualité que de prix que d'intermédiaires. Donc prudence, oui, aux diamants bijoux, non aux diamants d'investissement avec une pseudo-rentabilité. Comme chantait Marilyn Monroe, les diamants sont les meilleurs amis des femmes et ça doit le rester, mais ça ne doit pas être le meilleur ami des investisseurs. Donc, prudence avec le diamant d'investissement, tout à fait. D'ailleurs, sur les 9 intermédiaires autorisés à proposer des biens d'investissement divers aujourd'hui en France, il n'y a pas une seule société qui propose des diamants d'investissement. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui a même osé leur demander un numéro d'enregistrement auprès de l'AMF.
Quel autre placement plaisir à éviter vous avez dans votre radar?
Alors, j'aurais plutôt tendance à vouloir être positif. Et donc, être positif, c'est mettre l'accent sur quoi il faut y aller. Donc, bien sûr, c'est le vin. Le vin appartient à notre patrimoine national. Il peut aussi appartenir à votre patrimoine. Et puis, c'est surtout un sujet d'actualité. Alors, on est un tout petit peu, c'est quelques mois, deux bons mois avant les foires au vin. Mais il y a d'autres façons d'investir dans le vin. Et je dirais, la manière qui est d'actualité, ça consiste à investir en primeur, c'est-à-dire dans un vin qui est encore en barrique. numérique et c'est en ce moment, c'est un mode de commercialisation qui permet pour les châteaux bordelais, puisque ça se fait surtout dans le Bordelais, je dirais, d'acquérir de la trésorerie. Et donc, c'est en ce moment que vous pouvez investir dans du primeur 2023. Et bonne nouvelle, cette année, les prix sont en forte baisse. Donc, ça n'était pas arrivé de mémoire depuis des années et des années, avec des baisses sur certains châteaux à moins 20, moins 30%. Donc, c'est le moment de mettre des bons Bordeaux, je dirais, dans votre cave, sachant que chaque année, vous savez, au revenu, on fait un comparatif entre le prix des primeurs et puis le prix quelques années après sur le marché. Et c'est vrai qu'on remarque que dans 90% des cas, vous êtes gagnant. L'investisseur est gagnant, mais il y a quand même quelques conditions à respecter. La première condition, mais c'est que, un peu comme tout en matière d'investissement, et malheureusement pour de nombreux actifs, plus c'est cher à l'achat, plus généralement ça prend de la valeur. Donc si vous souhaitez investir et vraiment investir plus que même placer dans des bons Bordeaux, il faut mieux investir dans des bouteilles à 200, 300, 400 euros plutôt que dans des bouteilles à 20 euros, simplement parce qu'elles prendront davantage de valeur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qu'on a remarqué quand on fait ces comparatifs de prix entre le prix des primeurs et puis le prix de marché quelques années plus tard, c'est qu'il faut laisser du temps au temps. Si vous achetez aujourd'hui au mois de juillet des primeurs 2023, il faudra attendre certainement 8, 9, 10, 15 ans avant de les revendre sur le marché. C'est ce qui vous permettra de faire la culbute la plus importante.
Durée qui marche aussi si vous comptez les boire.
Durée qui marche aussi si vous comptez les boire. Donc dans les deux cas, vous êtes gagnant. Et sur le plan financier, quand même, il y a une alternative qui est plus intéressante que l'autre. Et donc voilà. Donc après ça, vous avez la dernière façon d'investir dans du vin. C'est bien sûr ce qu'on appelle les groupements fonciers viticoles. Et donc ça, ce sont des SCI, c'est-à-dire vous regroupez à plusieurs investisseurs pour acheter des parcelles qui sont ensuite la gestion est confiée à un professionnel. Et puis une fois par an, vous réunissez sur le domaine à l'occasion de l'Assemblée Générale et vous partez donc avec vos dividendes sous forme de dives bouteilles que vous mettez dans le coffre de votre voiture. Donc c'est l'occasion, c'est une autre façon d'investir dans le vin et puis c'est une façon aussi de partager cette passion puisque vous rencontrez à ce moment-là les autres associés. Donc c'est aussi une façon d'entretenir et de développer des liens amicaux. Mais oui, le vin, ça fait clairement partie des placements réels à acquérir.
Cette liste des biens divers, hein, des organismes qui ont le droit de vous vendre des biens divers, la liste blanche de l'AMF, elle est très facile à trouver sur le site. Si vous aussi, vous voulez participer à la construction de votre cave avec deux sorties, deux exits possibles, boire votre vin ou le revendre. Un mot pour conclure sur un placement qui vous est cher, ce sont les montres qui retiennent aussi votre attention dans ce contexte.
Oui, les montres de luxe, notamment les montres d'hommes, c'est très tendance, c'est très à la mode. Alors c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'avec les smartphones, en fait, ça allait tuer le marché des garde-temps. Ça a été exactement l'inverse. En fait, ça a tué le marché des appareils photo, mais pas le marché des montres. Alors, il n'y a pas d'indice, je dirais, qui mesure l'évolution du prix des gardes de temps de luxe, puisqu'on parle bien de ça.
Il y a le Bloomberg Rolex Index.
Si, c'est vrai. Ouais. Mais ça mesure l'évolution du prix des Rolex, j'imagine.
Oui, ça marche, je pense, aussi pour les Tudor et puis deux, trois autres marques qu'il doit y avoir dans l'escarcelle. Ouais.
Alors, je ne connais pas cet indice, mais en fait, si on cite quelques modèles emblématiques de Jagger LeCoultre, de Cartier, de Rolex ou de Audemars Piguet, en fait, les progressions sur le marché secondaire, les hausses de prix sont en 5 ans sont très très spectaculaires, pour certains modèles sont supérieures à 100%. Alors, c'est quand même un marché de niche, hein. C'est un marché de spécialistes, avant tout un marché de plaisir. Il faut investir dans une montre qui vous plaît, avec trois règles d'or, bien sûr: qualité, rareté et provenance. Vous avez cité des grandes marques de montres suisses. Moi, je vous propose aujourd'hui plutôt de jouer des marques françaises. Alors, il y a toujours LIP. Historiquement, il y a toujours des professionnels et des particuliers qui misent sur le rebond de cette marque. Et puis, sinon, vous avez bien sûr Pékinier, qui est l'un des derniers horlogiers français, un manufacturier au sens classique du terme, qui fabrique son propre mouvement et qui n'est pas que un assembleur. C'est intéressant à noter, avec des montres accessibles, avec quelques milliers d'euros. Voilà. Mais quel que soit je dirais, le placement réel, le placement tangible qui vous intéresse. N'oubliez pas qu'on est quand même sur un marché où la vigilance s'impose, toujours demander des propositions commerciales écrites, toujours vérifier la documentation technique, toujours se méfier en particulier des provenants des propositions commerciales qui viennent de l'étranger, où je dirais la législation peut être moins protectrice pour les épargnants et pour les investisseurs et les consommateurs. Voilà, c'est vrai que c'est les placements réels, les placements tangibles en période d'incertitude. Les offres vont se multiplier, c'est sûr et certain, mais toutes ne sont pas à regarder de près, et c'est d'autant plus difficile de distinguer le bon grain de l'ivraie, et que bien sûr les aigrefins surfent sur les modes, et les modes en matière de placements tangibles, et ben ça va être l'éolien, ça va être les bornes de recharge pour véhicules électriques, ça va être les panneaux solaires. Donc voilà, en cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter ou revenu ou à contacter le gendarme des placements, l'AMF.
Merci beaucoup Christian pour ce regard posé sur ce qu'on appelle les placements réels. On parlait de placements tangibles, de placements qui peut-être vous rassurent ou vous rassureraient. Vous avez des questions, on a des réponses tous les jours à 11h30 dans Tout pour investir. Je vous renvoie à la une du revenu pour lire à la plage, le numéro spécial d'été. Combien il faut épargner pour lever le pied? Racontez-nous ça en quelques secondes, Christian.
C'est la version 2024 de notre best-seller dossier d'été, vivre sans travailler. C'est vrai que il y a de plus en plus de jeunes et moins jeunes qui veulent acquérir une certaine forme d'indépendance financière vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis de son employeur. Donc on explique un tout petit peu aux lecteurs comment lever le pied, comment épargner régulièrement, comment miser sur les marchés financiers pour, au bout de certaines années, vivre sans travailler, ça se prépare, au bout de certaines années, pouvoir vivre en partie ou totalement des revenus de ses placements. Donc beaucoup de tableaux avec des simulations sur combien il faut pour avoir 1000, 2000, 3000 euros par mois de revenus en consommant ou en consommant pas son capital, en le gérant soi-même ou en le confiant à un assureur. Et puis aussi des témoignages de jeunes et moins jeunes qui ont levé le pied, qui sont partis prendre du bon temps en Asie, qui font un tour du monde, qui décident de quitter les grandes villes pour se réorienter sur le plan professionnel. Voilà, un numéro à lire dans le train, un numéro à lire en partant en vacances si vous avez la chance de pouvoir partir, un numéro que vous pouvez aussi bien sûr découvrir chez vous, c'est en vente en kiosque.
À lire si vous partez en vacances ou justement si vous ne partez pas en vacances pour pouvoir lever le pied et partir en vacances ultérieurement. Merci beaucoup.
Bien rebondi.
Et toute l'équipe du Revenu. Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay sur notre site et notre application. On a parlé de placements rassurants. On va maintenant parler de quelque chose d'inspirant. On va être coaché par la présidente de Christie's France sur l'état du marché de l'art. Est-ce que c'est le moment d'investir? On va aussi parler du centenaire du surréalisme pour finir cette émission. Est-ce que c'est possible d'investir encore dans des œuvres surréalistes? Réponse à suivre pour finir l'émission de manière culturelle.
Tout pour investir. Investir autrement.
On s'occupe de votre culture financière, mais aussi de votre culture, tout court, avec la maison Christie's pour finir l'émission. Bonjour, Cécile Verdier.
Bonjour, Lorraine.
Vous êtes présidente de Christie's France, vous êtes commissaire-priseur aussi dans votre quotidien. Vous êtes avec nous pour prendre le pouls du marché de l'art, dire à nos auditeurs, téléspectateurs, comment se porte ce marché particulier et que dit-il non seulement de notre économie, mais aussi de nous, collectionneurs, investisseurs, ou comme j'aime bien dire, wannabe collectionneurs. Comment va l'art en France aujourd'hui ?
L'art va plutôt bien. L'art ne va pas si mal. Je dis pas si mal parce qu'on entend beaucoup de commentateurs dire que les marchés sont plus difficiles, mais le marché de la vente aux enchères publiques, qui est le mien, se porte plutôt très bien. Au premier semestre, on aura vendu pour plus de 200 millions d'euros chez Christie's, alors que l'année dernière, on était à 114. Donc le marché se porte bien, avec moins d'objets aussi. Donc nous avons vendu beaucoup d'objets, mais en plus à des très bons niveaux de prix. Le marché se porte bien dans cet environnement incertain à tout point de vue. Il est vu probablement comme une forme de valeur refuge, de valeur plaisir. Et puis, comme beaucoup de vendeurs sont hésitants à vendre, finalement, la rareté paye. Donc, quand une belle œuvre arrive sur le marché, elle fait un très gros prix. à l'image d'un tableau de Chardin qu'on a vendu très récemment au mois de juin dernier.
Absolument, votre équipe était venue juste avant la vente d'ailleurs nous faire monter un petit peu la sauce, si je puis dire. Vous nous dites, voilà, un marché qui se porte pas si mal, on va se projeter un peu dans les prochains mois évidemment, mais quels sont les sous-jacents de cette santé? D'où viennent vos investisseurs, vos enchéreurs? Et on comprend moins d'objets vendus, moins de pièces vendues, mais à des plus hautes valorisations. Qu'est-ce qui explique cette mutation du marché?
Donc, moins d'objets, puisqu'effectivement les vendeurs sont un peu inquiets, soucieux de se demander si c'est le moment de mettre sur le marché une œuvre leur appartenant. Du coup, ce qui arrive sur le marché vient souvent de collections, de successions, dans des ventes qui sont un petit peu obligatoires.
Un peu comme dans l'immobilier, en fait.
Voilà, exactement. Dans une famille où on doit séparer une collection, c'est le moment où on le fait. Sinon, c'est plus difficile de réunir les objets dans les ventes qu'on appelle à divers amateurs. Mais les collections, on en a eu beaucoup. C'est la moitié des ventes que nous avons eues au premier semestre, c'était des collections. Du coup, effectivement, quand les objets sont de qualité, qui n'ont pas été vu sur le marché, c'est-à-dire un objet qui appartient à la même famille ou à la même personne depuis 10, 20, 30 ans, il a acquis une forme de fraîcheur, donc c'est une originalité, à la différence d'un tableau qui serait passé tous les deux ans comme un objet purement spéculatif. Donc ça, c'est vraiment un des éléments importants. S'il est bien estimé, qu'il est frais sur le marché, qu'il est en bon état, qu'il n'a pas été restauré de façon excessive, et qu'il a appartenu à quelqu'un d'important, et ça, on va y revenir, on a tous les ingrédients pour que les objets, les prix soient très élevés.
Quelle est votre perspective? Nous n'avons pas de boule de cristal. Mais comment vous anticipez les 6 prochains mois à l'échelle de la France, si on peut zoomer sur notre marché à nous, à 6 mois là?
Je peux dire à 15 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. On ne va pas raconter l'histoire, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'argent dans le monde. Que ce que nous vendons chez Christie's est vendu, suivant les spécialités, à 60-70% à des clients qui ne sont pas résidents français ou qui ne sont pas français. Donc, on est sur un monde macro plutôt que micro, purement français. On est vraiment sur le monde entier. Notre marché est un marché mondial, même quand on vend uniquement à Paris. Est-ce que ça va impacter... Est-ce que les enjeux du monde en général vont pouvoir impacter le marché? Ça peut arriver à partir du moment où on sent que le marché immobilier est plus difficile. Mais en fait, en ce moment, on sent plutôt que les marchés d'actions sont plutôt bons. Enfin, donc, cette espèce de up and down constant, finalement, les objets d'art apparaissent comme quelque chose d'assez linéaire. Donc, on est plutôt confiant. L'idée aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rendez-vous dans le marché et surtout dans le monde des expositions. Vous allez parler du surréalisme, qui vont être autant de temps forts pour redécouvrir des moments d'histoire de l'art et qui, du coup, vont permettre aussi de redécouvrir dans le marché ces moments de l'histoire de l'art.
Dans une autre séquence avec Christian Fontaine, le directeur délégué de la rédaction du Revenu, nous parlions des placements rassurants. On parlait de placements réels, de placements tangibles, de montres, mais aussi de vins ou encore d'investissements dans les forêts. Est-ce que l'art rentre dans cette catégorie de ces tangibles? Vous parlez de l'importance de l'origine des biens qui passent aux enchères. Est-ce que tout ça participe à construire des choses que les investisseurs ou les wannabe investisseurs trouvent très réelles, très tangibles?
En fait, fondamentalement, il y a deux mouvements, si vous voulez, qui expliquent ce succès. Le premier, c'est effectivement l'idée que dans un monde difficile comme celui dans lequel nous vivons, l'art est un échappatoire. C'est une façon d'embellir la vie tous les jours, de parler de son quotidien, d'être dans sa vie quotidienne et non pas de forcément se projeter à long terme. Donc on a envie de se faire plaisir et on peut, dans le marché de l'art, à partir de 3-4 000 euros, se faire plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Ça explique cette résilience du marché. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'art est vu comme une diversification d'actifs. Je vous rappelle que les objets d'art ne sont pas imposés en France, comme dans beaucoup de pays encore. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir diversifier son patrimoine en faisant quelques achats qui apparaissent comme des valeurs sûres. Ça ne doit pas être vu comme des achats spéculatifs, mais comme des achats de plaisir, des choses qui avant tout doit vous faire plaisir, mais que vous inscrivez dans un patrimoine global, qu'il s'agisse de tableaux ou d'objets. Après, il y a des tendances, il y a des choses aussi qui sont, je dirais pas à la mode, mais qui ont été souvent sous-exploitées ou sous-estimées et qui sont vraiment, qui continuent à avoir beaucoup pour nous de sous-achats de progression important.
Exemple.
Le premier, les femmes. Et quelle que soit la catégorie, qu'il s'agisse de tableaux modernes, de design, de tableaux anciens, de bijoux, de tout ce qui est une œuvre.
Vous parlez de Suzanne Belperron la semaine dernière dans l'émission.
Alors voilà, Suzanne Belperron l'autre jour. Françoise Gillot, qui a été une des campagnes de Picasso, c'est un tableau qu'on a vendu au printemps, qui devait être estimé 200-300 000 euros, qui a fait 1,4 million. Françoise Gillot, il y a 10 ans, personne ne regardait les œuvres de Françoise Gillot. Elle était vue comme une espèce de à côté de Picasso. Et elle est bien plus que ça. Le marché est en train de le révéler. Toyen, on parle du surréalisme, c'est une femme. On vendra plusieurs pièces en septembre. Une artiste qui a été redécouverte, je dirais, par le marché il y a 5-6 ans. On n'en parlait pas avant. Dans le design, Vous avez Charlotte Perriand qui est très connue depuis longtemps, artiste des années 50, pour lequel il y a une profondeur de marché parce qu'elle a beaucoup créé. Il y a des œuvres à 2000 euros et des œuvres à 500 000 euros. Donc on peut acheter une pièce estampillée de ce nom de cette femme qui était vraiment là, une des grandes designers du XXe siècle pour des gammes de prix très larges. Dans toutes les catégories du marché, tableau ancien, bien sûr, évidemment, aussi, c'est le cas. Et donc voilà, vous avez une diversification qui vous permet d'acheter. Il y a vraiment les femmes, c'est une des tendances fortes.
Les femmes, une tendance forte que votre équipe a pu nous révéler, participer à révéler au cours des derniers mois dans l'émission. Un mot quand même d'un anniversaire qui mérite qu'on s'arrête dessus, ce sont les 100 ans du surréalisme. Oui. Comment se porte le marché du surréalisme en France ?
Surréalisme, c'est une spécialité qui n'est pas française uniquement, parce qu'on parle beaucoup du surréalisme belge notamment, mais c'est un domaine qui a toujours beaucoup, beaucoup plu en France. Probablement pour ce mélange de quelque chose de très libre, création débridée, qui est parfait loufoque. Et puis aussi, il y a un côté aussi, il y avait un point de vue, si je veux dire, que le manifeste du surréalisme, c'était véritablement un point de vue à définir que, voilà, qu'on a le droit de s'affranchir de beaucoup de barrières. Et cette liberté fait probablement partie aussi de l'ADN français. Donc ce côté complètement iconoclaste, libre, a toujours eu un grand succès en France et le surréalisme est né en France, même si on en a beaucoup de mouvements et on fait beaucoup d'interventions dans beaucoup de pays différents.
Aujourd'hui, vous savez, on est très mercantile dans l'émission puisqu'on parle d'investissement.
Allons-y.
Des experts, notamment des maisons. Si j'ai 10 000 euros aujourd'hui, dans quoi j'investis ?
Alors d'abord, avec 10 000 euros, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et même chez Christie's, je tiens à le préciser, parce que si le prix moyen chez nous, il doit être autour de 70 000 euros, avec 10 000 euros, on peut acheter beaucoup de choses. Je vous parle des femmes, je vous parle des objets qui ont une provenance, qui ont appartenu à quelqu'un. Le marché valorise beaucoup l'histoire des objets. Derrière l'objet, c'est le regard, ça peut être celui d'Elton John, dont on a vendu collection il n'y a pas si longtemps, Vivienne Westwood, encore récemment à Londres. Mais le fait qu'il y ait une personne, Hubert de Givenchy, comme on l'avait fait en 2022, le fait qu'une personne qui est réputée pour son goût, son œil, son originalité, ait posé son regard sur une œuvre, ça lui donne de la valeur. Donc acheter une œuvre avec ce qu'on appellerait un pédigré, c'est toujours un plus. Et pour 10 000 euros, on peut acheter un premier bijou dans une vente aux enchères, une petite œuvre de Lalanne dans une vente aux enchères, un dessin ancien, une œuvre sur papier. En général, les œuvres sur papier de grande qualité, pour 2-3 000 euros, vous avez un très beau dessin ancien. Vous avez de la photographie à moins de 10 000 euros. L'important, c'est véritablement pour moi de garder toujours 4 critères. La fraîcheur, un objet qui n'a pas passé 10 fois sur le marché, à une bonne estimation, qui a appartenu à quelqu'un qui a une histoire, un pédigré, et puis qui est en bon état. C'est les 4 critères, mais une fois qu'on a respecté ces 4 critères, dans toutes les catégories du marché, on peut faire des bons achats.
Les bons conseils, la grille d'achat ou la grille d'envisagement, j'allais dire, de Cécile Verdier, la présidente de Christie's France. Dans Tout pour investir, vous avez entendu fraîcheur, juste estimation, pédigré, et puis évidemment état. On n'achète pas quelque chose en mauvais état, en tout cas. Merci beaucoup, Cécile, et toute l'équipe de Christie's. Séquence à retrouver en podcast et en replay. Votre prochaine grosse vente à venir ?
Les prochaines ventes seront à la rentrée. Là, nous finissons, en fait. Demain, nous avons une vente qui termine. Ça, je l'ai mis. C'est vente en ligne. Vente de Mal Vuitton. Première et plus grande collection au monde de Mal Vuitton. On n'a jamais de vente de cette qualité. Et ça, c'est amusant parce que comment la Mal Vuitton est devenue un objet de voyage et devenue un objet de décoration. Et puis sinon, ça sera le fameux surréalisme en septembre avec une collection et des expositions.
Bah, vous viendrez nous en parler. Vous nous apporterez peut-être une œuvre.
Mais avec plaisir. Avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup. Merci à vous. Cécile Verdier, présidente de Christie's. Séquence à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.